Ou que la nuit a été courte. Désolé, 9h... 9h54, normalement c'est 9h, 9h15. Annoncé 9h45. Tout va à volo. Tout va à volo. La nuit fut courte, mais fut ok en fait, mais je sais pas, j'ai quand même dormi au moins 4 heures. Donc je devrais plutôt être en forme. Mais je me suis réveillé comme après une grosse soirée. C'est quand on était jeune, quand j'étais jeune. Et alors j'ai lu un peu les journaux ce matin, je vous raconte ma vie, hein, comme d'habitude. C'est pas mal, c'est pas fou, mais c'est pas mal. Il y a des matins très rares où je décide de pas faire. Il y a eu une matinée où j'ai pas fait de revue de presse récemment. C'était vraiment bon, l'actu était pas tellement au rendez-vous finalement. Et parfois c'est une dinguerie. Tu te dis mais qu'est-ce que comment choisir? Et là c'est entre les deux. Non, en vrai, il y a des trucs intéressants. Mais c'est chill, il n'y a pas de gigadrama et ça fait du bien. Quand sera en ligne sur YouTube le réact de ton passage à la commission? Oh, aujourd'hui, en début d'après-midi, Mathieu va s'occuper de ça. Comment ça va? Attends, attends, attends. Oui, Major Phoenix dit coucou Samuel, je me suis dit exactement ça, on n'a pas beaucoup dormi. Je n'ai pas beaucoup dormi, vous n'avez pas beaucoup dormi. On a arrêté à quelle heure hier soir? 2 heures? Oui, c'est ça, on a fait un stream de 6 heures, j'ai lancé à peu près 20 heures, on l'a coupé à 2 heures. Et certains sont là. Je vous vois. Ah, merci Eurise pour ton message. Merci Saccage pour le deuxième mois. Merci Towelly pour le 23e mois. Et le Hello, comment ça va YouTube? N'hésitez pas à écrire vos mails hein, pour qu'on puisse interagir dans YouTube, Twitch, de vos mails dans le chat. Merci. C'est une petite blagounette d'initié. Merci Valval 787. Il fallait écouter l'audition pour avoir la vanne qui claquait au sol. Merci Aragorn pour le Prime. Merci Alice Roignan pour le troisième mois. Merci le narrateur pour le Prime. Merci Shanky pour le Prime. Merci Dekiné pour le Prime. Merci Skytime. Merci Petit Bou. Merci Angona. Merci Wallraylor. Merci Mac Doumont. Merci Norbert Design. Merci Cassis Bonbon. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que... C'est des gens qu'on sub il y a une heure, à l'heure où j'aurais dû lancer ce stream. C'est trop mini. C'est trop mignon. Merci Eloriel. Merci Rock'n'Paul. Merci. C'est drôle. Il y a une heure littéralement, à l'heure où j'aurais dû lancer ce stream normalement. Eh bien, les gens sub, c'est trop mignon. Merci super JD. Merci Zazatori. Merci Artémien. Merci Crash. Ça, c'est tous les subs d'il y a une heure. C'est incroyable. Et merci la Reine Mère. Et merci Saccage. Et vous êtes incroyable. Bonjour Alexandra. J'espère que tu vas bien. Ah, j'ai pas fini de replay. Oui, on a fait 6 heures. Je suis désolé. Alors, hier, il y avait deux options hier soir. Parce qu'hier soir, donc, vous l'avez compris. Tiens, attends, je vais fermer le chat et le réouvrir parce qu'en fait, il y a un mini bug. Je reviens. Doc, chat. Voilà, ça, je pense que, comme vous savez que je suis un ingénieur informatique, je pense que ça devrait être réglé. Hier, il y avait. Ah bah non, tiens. Ça, c'est marrant. Je sais pas si d'autres streamers ont le sujet. Il y a comme un message qui s'écrit en vertical qui vient cacher des trucs, peu importe. Hier, on avait deux options. C'était ou on regardait que les moments où je parle dans cette audition, et en gros, on faisait un react en 3 heures, 3 heures et demie. Ou on regardait toute l'audition qui a duré 3 heures et demie, on faisait un react global, et parfois, il y avait des choses très intéressantes aussi à dire sur Hugo Clément et sur ses échanges avec la commission. Et on a choisi la deuxième solution. Et cette audition de 3h30 est donc devenue un live de 6h. Mais c'est ça qu'on aime sur Twitch, c'est de prendre le temps.
Exactement.
De comprendre, de contextualiser. Moi aussi, j'ai le droit de contextualiser. De contextualiser, de poser des questions, de s'interroger, de reconnaître parfois qu'on a tort, de dire pour le stream, ah, mais vous avez raison, j'avais pas pensé à ça. Il y avait une troisième option, la lecture en vitesse 1,5. Non, non, c'est pas une option, ça. Bon, non. Oh, bonjour Samuel, merci de m'avoir tenu éveillé alors que mon bébé s'est réveillé à 1h du mat à cause de son rhume. Oh! Alors, rhume ou allergie? Enfin, c'est peut-être, je sais pas si les bébés peuvent avoir des allergies, mais hier midi, je recevais Jérémy Ferrari, Dans MVP, c'est génial, hein. C'est ce qu'on appelle dans le langage des médias un bon client. Le gars est incroyable, il joue le jeu de l'interview, il est en rebond, il écoute les questions, il met de la vie, il met de la matière, il est drôle. J'ai été totalement séduit par cet échange avec Jérémy Ferrari, que je connais vite fait. C'est lui qui m'a rappelé qu'on avait fait un Fort Boyard ensemble, j'avais zappé. Mais le mec est quand même génial. Donc ça, c'est en replay sur ma chaîne Twitch, mais aussi sur la chaîne YouTube de MVP. L'entretien d'une heure avec Jérémy Ferrari, sa vie, son œuvre, son film qui sort le 11 mars, Les Cadors, en tant que réalisateur. Il dirige notamment Laura Felpin, Eric Judor et tout, c'est une dinguerie. Et vraiment, l'échange est génial. Pas parce que les questions du présentateur sont intéressantes, mais parce que l'invité est topissime, quoi. Ouais. Tu en as fait des trucs en une journée hier? Bah, hier on a fait 10 heures de live. On a fait 10 heures de live parce que, attends, je lance à 8h30. Je cut à 13h15. Ah non, non, 4h45. J'ai fait presque 11 heures. J'ai fait 10h45 de live, je crois. Ouais. Ah ouais, quand même. Plus la prépa, parce que ça se prépare un peu tout ça. Enfin, surtout le MVP qui... Ouais, MVP, c'est... Bon, c'est pas tant de taf que ça, en vrai, mais... Il y a un peu d'écriture, quoi. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Bonne journée de live. Oui, Alex, merci. Le 4 à la suite, bien sûr. Allez, je vous lis un petit peu. C'est le plaisir du streamer ou de la streameuse, hein, c'est de vous lire, hein. Ce qui va suivre, le contenu, c'est très anecdotique, secondaire. Et une annonce de festival. Ah ouais, Sugar. Le festival MVP, ça c'est quelque chose, ça. N'hésitez pas à venir me voir au festival MVP, hein. C'est gratuit. C'est quoi la date? C'est le 11 avril, c'est ça? Il faudrait que je fasse Il faudrait que je... Vous savez ce qu'on va faire? Je vais vous faire une commande dans le chat. C'est où? Bah, il faut que je vous fasse une commande, attends. Attends, MVP. Je vais vous faire une commande. Salut Charles-Henri, tu vas bien? Non, 6 heures, on a fait 6 heures hier soir. Mais comme j'avais fait 4-5 heures le matin. MVP, ma vie pro. Parce que ça, c'est en gros, c'est un salon, mais c'est plus qu'un salon, hein, c'est un vrai festival. Qui parle de formation, d'emploi, d'insertion. MVP, ma vie pro. Je vais vous faire un... Voilà. Je vais voir. Ils n'ont pas mis le visuel du truc. C'est la petite vidéo remarque. Oh, j'ai l'air fatigué sur cette vidéo. Regarde comment j'ai l'air fatigué. On dirait que j'ai rentré ça après une audition de 3h30 à l'Assemblée nationale. Hein, vous trouvez pas que je suis fatigué, chouchou? Regardez. Non, ça va, c'est ok. Les petits yeux quand même, non? Ah, bien, bon, c'est pas mal parce qu'il y a le lien et tout. Ok, bah je vous le mets. Je vous le mets. Ok. Je vais vous faire un. Les poches sous les yeux. Ah, je savais. Nouvel onglet, Nightbot. Ah, le site web. T'as peut-être raison, le site web c'est mieux en vrai. Tiens, je vous montre le site web. Toujours raison, Sugar. C'est énervant, Sugar, il a toujours raison. Mais oui, t'as raison, c'est le festival. On va mettre le site. Regardez. Explorer toutes les voies, trouver la sienne. C'est moi qui le dis, ça. Voilà. Paris Event Center, donc c'est à Paris. Voilà. Samedi 11 avril. Je m'inscris gratuitement. Il y en a une déjà? Attends, j'ai déjà fait un bot festival? Oh, je suis con. Hein. Merde. Putain, ça existe déjà. Oh, le vieux. Oh. En fait, j'ai été super rapide. Point d'exclamation estival, festival. Voilà. Je viens de le faire. Vous m'avez pas vu, hein, le faire tellement j'avais été rapide. Hein. Voilà, expérience métier. Il y a des ateliers pour s'immerger dans des métiers. Coaching personnalisé. Il y a des masterclass. Il y a des tables rondes. Il y a du job dating. En fait, je fais que lire le truc. Hein. Rencontre avec des pros, il y a un comedy club. Quelqu'un m'a demandé est-ce qu'il y a un concert? Mieux, il y a un comedy club. Voilà. Il y a, on fera un live MVP. Voilà. C'est pas la team MVP qui t'a fait la commande? Ah, c'est pas impossible. C'est peut-être la team MVP, ouais. Voilà. Voilà, et quelques-uns des invités, là, je sais pas qui c'est, là, Samuel Etienne. Ah ouais, je le vois, lui, c'est une militant, je vois. Oh, Samuel Durand, il y a un autre Samuel. Laurel Lévy, que j'adore. Il y a Charlie Haid, qui est super sympa. Ludovic B, bien sûr. Pourquoi il est tout en bas? Ludovic B, il devrait être tout en haut. Rencontre avec Pascal Praud? Non, c'est pas prévu. Non. Ah, et en vrai, cette petite vidéo, elle est mignonne. Attention. Attention, dans cette vidéo, il y a le comédien Samuel Etienne.
Tu veux faire quoi plus tard?
Ils veulent tous faire de l'IA maintenant.
Non, mais il lui faut un boulot stable.
Fais pas de la com.
Attends, je te le remets au début, parce que c'est. Attention, hein. Maintenant, il y a des petits films, hein, c'est une super production, hein.
Tu veux faire quoi plus tard?
Ils veulent tous faire de l'IA maintenant.
Non, mais il lui faut un boulot stable.
Fais pas de la com, c'est bouché.
Et si tu faisais médecine?
Médecine, bah t'as vu ses notes?
Ouais, tu sais que le cousin Hugo, lui, mais il a
trouvé. De toute façon, si tu gagnes pas
70K,
je te jure, physique,
ça fera pas de mal.
Comptable,
des fruits, faut que tu décides à un moment.
Des frites, des frites!
Non, mais attends, on décide pas de sa vie pro entre deux frites et un poulet. Non, on explore d'abord. Tiens, regarde, j'ai une solution pour toi.
T'as vu, il y a des frites sur la table et quand je parle dans le téléphone, j'ai des frites dans la main. T'as vu l'intention? T'as vu l'intention? Bien sûr, il y a toujours Klemovic, bien sûr. T'as vu l'intention? T'as vu le tournage un peu? Le cours Florent, exactement. T'as l'air plus vieux sur cette vidéo. Ouais, quand j'enregistre ces petits trucs-là, c'est après MVP. C'est-à-dire qu'en fait, je suis debout depuis 5 heures. J'ai fait le live de 4-5 heures. Et après, il me faut enregistrer des vidéos. Ah oui, j'ai une tête crevée, ouais, à chaque fois. Vous avez remarqué que j'ai toujours une tête crevée sur les vidéos MVP. Je fais ça à 14h. Je fais ça à 14h, je suis levé à 5h du mat. J'ai 5h de live dans les dents.
Non, mais on te met pas la pression. On s'inquiète, c'est différent.
Ben ouais. Est-ce que c'est utile pour un trentenaire en recherche d'autres choses? C'est destiné aux jeunes? Ah non, Merlouche, c'est destiné à tous les publics. C'est destiné aux collégiens, aux lycéens, aux étudiants, mais aussi aux actifs qui veulent se réinventer. Et peut-être que ça peut leur donner des envies de nouvelles entreprises, de nouveaux jobs. Voilà. Donc, il y a quelques-unes des entreprises qui soutiennent le truc. Il y a même France. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? France Info? Il y a Alex02 dans le chat qui crie « Oh my god, des sponsors, attention, la commission va venir. France Info est partenaire de ce truc ?» Non mais...
On va encore me poser...
Monsieur Etienne, votre chaîne Twitch, elle est soutenue par de l'argent public? Oh non, il y a France Travail. Non. Non. Il y a France Travail. Il y a la poste. Ah, Lidl, ça va, ça, c'est privé, ça. Oh, non. République française.
Oh non. Encore de l'argent public.
Il y a République française. L'armée de l'air, putain. C'est de l'argent public. Oh. Attends, en même temps, il y a un monde où c'est des sponsors, quoi. Ah là là. Arrêtez, monsieur Étienne, de troller. Arrêtez de rire. Ce sont des sujets sérieux. En vrai, c'est un super festival. C'est le 11 avril. C'est à Paris. Point d'exclamation festival. Je serai sur place. C'est toujours pareil. C'est comme MVP. On explore les voies pro pour que chacun puisse trouver sa voie pro. T'es collégien, tu sais pas ce que tu veux faire plus tard. T'es lycéen, tu sais pas ce que tu veux faire plus tard. T'es étudiant, tu réfléchis à ton avenir. Tu travailles déjà, mais t'as envie de te réinventer professionnellement. Il y a MVP, il y a l'émission, et puis il y a le festival. Bim ! Voilà. Ah. Bon, comment ça va, vous, sinon? Salut, le chinois de 76. T'as 30 ans, tu sais pas ce que tu veux faire plus tard? Bah oui, Tinomis. Bah, tu sais, les gens, ils ont 65 ans, ils savent pas ce qu'ils veulent faire plus tard. Hein. Ils ont toujours pas trouvé. Hein. Ça fait 40 ans qu'ils bossent, mais ils sont toujours pas dans. Ils aiment toujours pas ce qu'ils font. Hein. C'est une chance inouïe hein, d'aimer son taf. Hein. Donc oui, il y a des gens, ils arrivent à la retraite, ils ont toujours pas trouvé ce qu'ils voulaient faire. Hein. Hélas. Hein. C'est là où j'interviens, moi. Le boulard. Merci Nextratovic. Merci Elnura pour l'abonnement Faire la Commune. Merci FDP pour Fleur de Peau pour le 7e mois. Merci Noctalie. Tu régales. Merci Nerda. Merci Émissaire du Lointain. Joli. Merci la Reine Mère. Je te remercie déjà tout à l'heure, je crois. Je te remercie déjà.
Je crois que oui. La Reine Mère.
Merci beaucoup, Leader Mio, pour ton message. Je vais peut-être venir avec mon ado en première. Et n'hésitez pas aussi, si vous venez à cet événement gratuit, à venir, vous allez me croiser, hein, je serai sur place, à venir me saluer, à faire des selfies, à faire des battles de dance. On pourra faire des battles de dance si vous voulez, on pourra faire des compètes de bras de fer, des trucs comme ça. N'hésitez pas à venir me voir. Voilà. Festival, baby! Et ouais. Salut Samuel, je suis CIP. C'est conseiller d'orientation, ça non? Attends, j'ai un doute. Kiyosama, c'est ça? Je vais partager ton événement car je trouve que c'est vraiment une super idée, que ça va pouvoir aider beaucoup de gens. Merci. CIP, c'est pas conseiller. CIP. Attends, je l'ai pas. C'est quoi CIP? Déjà, je pense que c'est dans ce domaine-là, non? J'ai un doute. Conseiller en insertion professionnelle. Merci Desmond Mal. Merci beaucoup. Conseiller en insertion pro. Let's go! Beau métier, en vrai. Ah, j'ai 22 ans, je fais de grandes études car j'aime bien apprendre, me dit GG, mais je ne sais pas ce que je veux faire plus tard. Viendez au salon. Viendez. Samuel, c'est le mythique du monde pro. Je ne connais pas mythique, moi, Sugar. Je ne sais pas ce que c'est, ces choses de jeunes-là. Merci, mon Squirrel, pour ton message. Je vais le dire à Webedia. J'ai trouvé le taf parfait pour moi, me dit Little Twinny, c'est trop mignon, malheureusement. Il n'est pas rémunéré ni reconnu par la société et je suis bien d'accord avec toi, c'est un scandale. Mon travail de maman et la gestion de la maison slash potager me comble en tout point. Tu vas rejouer à Valorant? Alors, très bonne question. Je pense que c'est la question la plus essentielle que nous nous soyons posée ce matin. Ce soir, je ne sais pas ce que je vais streamer. Parce que je sais que je vais streamer ce soir. C'est comme je ne sais pas ce que je ferai plus tard. Moi, je ne sais pas ce que je vais streamer ce soir. Je sais que je vais streamer, mais quoi, je ne sais pas. Est-ce qu'on retrouve est-ce qu'on refait un stream d'actu? Passion actu. Est-ce qu'on va faire est-ce qu'on se trouve encore une audition à React? Passion débat. Est-ce qu'on lance un stream de jeux vidéo? Hein, ça fait bientôt 3 semaines qu'on n'a pas lancé un stream de jeux vidéo ici. Et dans ce cas, est-ce qu'on lance du Valorant, auquel on n'a pas joué depuis très longtemps? Est-ce qu'on lance du God of War? Il faut que je finisse absolument ce jeu incroyable qui est Beyond Two Souls. Voilà. Donc, mon cœur balance. Mon cœur balance. Mon cœur balance entre beaucoup de choses. Hiro me dit, Samuel, tu dois décharger un peu la tension. Ah oui. Ah oui. Oui, bah oui, oui, un petit peu de jeu, ouais. C'est cool de vous lire. J'ai mon petit café qui m'attend à la cafetière là, qui est coulé, c'est le bonheur. Mais attends, Xavier Niel à la commission? Attends. Ah, attends, ne me tentez pas, hein. Xavier Niel a été entendu par la commission? Attends, ne me tente pas, parce que ça, c'est super intéressant en vrai. Hein. Oui? What? Ah, mais ça va être top ça. Ah, non, moi j'ai envie de la faire en vrai. C'est quand? C'était quand? Ça devait être bien, non? Parce que Xavier Niel, il a pas sa langue dans sa poche, il se laisse pas raconter des histoires. C'est la même commission, en plus, c'est la commission sur l'audiovisuel public, c'est par rapport à son actionnariat dans Media One, je pense. Il s'est bien embrouillé avec eux? Oh putain, ça se regarde, non? Ça se regarde, non? C'est une grosse. Est-ce que c'est une grosse commission ou pas? Assemblée nationale. C'est une grosse commission ou pas? Attends. Media One. C'est là?
Parfois, il arrive que le travail devienne trop compliqué. Sauf.
Dans ce cas-là, viens au festival MVP.
Si vous utilisez.
Le 11 avril, viens me voir.
Monday.com, la plateforme de gestion du travail qui donne une vision complète.
Notamment celle du CNC ne devrait pas être attribuée à Media One parce qu'il y a un doute qui pèse.
26 février, c'est quand? Ça, c'est hier. Il y a qui là? Ça, c'est monsieur Capeton, ça. Pierre-Antoine Capeton, ça. On dit... Ah, c'est en ce moment ? Ah, c'est pour ça que... Ah, c'est en ce moment ? Et c'est... Ah, c'est aujourd'hui, putain, le 26. Ça, c'est monsieur Capeton, ça. Media One. Et c'était, c'est ce même jour, monsieur Niel ? Je vois pas, monsieur, je vois pas du tout Xavier Niel. Donc ça doit être un autre jour, monsieur Niel. Ça, c'est monsieur Capeton, ça. C'est en live. C'est quand, monsieur Niel ? Parce que quelqu'un m'a dit que... C'est cet après-midi ? Oh là là là, mais le gaming, mais on va jamais refaire de gaming sur cette chaîne. Mais on va jamais refaire de gaming sur cette chaîne. Qu'est-ce que vous me tentez que des bonbons comme ça ? Xavier Niel face à la commission ? Mais ça va être une dinguerie ! Mais ça va être une dinguerie ! Xavier Niel, le mec a roulé sa bosse, il a eu 1000 vies. Mais ça va être du catch ! Mais ça va être du catch ! Ah non, mais ça va être fou ! Ah non, mais non, mais ça n'est pas équivalent à mon niveau de gaming, quoi. Qu'est-ce qu'il fait encore en live, lui ? Qui ? Ouais, j'ai un petit café, là. Si tu regardes, on regarde. On va appeler Sturi, le spécialiste du catch en France, et je vais lui demander de venir commenter avec moi ce, tout à l'heure. 14h en visio. Ah, c'est en visio ? Ah, nul. Ah, moins bien. Xavier Niel en visio ? Ah non. Ah non. Ah, on va pas avoir le... Ah non. Ah non ! Ah, l'ascenseur émotionnel. L'ascenseur émotionnel. Oh. Ça, oui, c'est pas pareil. C'est nul. Remarque, il y a le curétien qui dit, bah, il a fri, il a tout compris. Oh, il y a un... Imagine Xavier Niel est en visio et il a une co de merde. Ça, c'est fun. T'es fou, c'est fun. On aime le fun. Fun, un parfum troublant. Fun, un déodorant. Fun, après, je sais plus. Imaginez Xavier Niel en visio et il a une co de merde. Et ça coupe et ça fait... T'as fri, t'as rien compris. Hein? Ok, ça m'a pas beaucoup dormi, on a la preuve. Oui, c'est quand je dis beaucoup de bêtises, c'est un signe du manque de sommeil. Hein? Ce serait incroyable. Imagine. Le mec, il a pas de co. Ce serait fou. C'est fou, c'est fun. On aime... Désolé. Un peu fun, un parfum, trop. Parce que... Nous aussi, on t'a en visio. Ouais, mais moi, j'ai de la co, moi. Moi, j'ai de la bonne co, moi. Qui veut la co ? Qui veut la bonne co ? Moi, j'ai de la bonne co. Sam, quand est-ce que tu retournes à la commission pour voler le gros bouchon ? Qui t'a dit que je n'avais pas emporté une carafe ? Qui t'a dit que dans mon petit sac où il y avait mon ordinateur, il n'y avait pas une petite carafe de l'Assemblée ? Une petite carafe Ikea avec le gros bouchon ? N'avez-vous pas vu que pendant les 3h30 d'audition, je passe littéralement 1h30 à regarder la carafe ? Regarder le replay, toujours regarder sur la longueur, ne pas se contenter d'extraits hors contexte, monter. Regarde, sur 3h30 d'audition, je regarde la carafe pendant au moins 1h30. Qu'est-ce que je fais pendant 1h30 ? Est-ce que je ne prépare pas un mauvais coup ? Est-ce que si on regarde la fin du live, on ne voit pas qu'une carafe a disparu ? Voilà. Non, évidemment que j'ai pas pris une carafe, c'est de l'argent public. Bien sûr que non. C'est fou, c'est fun. On aime le fun. Fun, un parfum troublant. Fun, un. Égyptien, elle va bien, la petite araignée, elle va très très bien. Est-ce que tu vas nous faire un mème de ton visage là-haut ? C'est vrai qu'attends, j'ai un mème, ouais. Attends, je crois que je l'ai la photo. Oui, c'est une pub de déo, ma musique, là. Oui, c'est fun, un parfum troublant. Pub. Mais si, mais je vous l'ai fait écouter, déjà. C'est une pub des années 80 pour un déodorant. Pub déodorant, fun. C'est, il s'appelait Fun, le déodorant. Fun, c'est fou, c'est fun. Putain, j'ai un Dailymotion sur publicité pour les déodorants Fun de 84 à 88. Attends, j'ai pas de son là, c'est Dailymotion. Trop jeune pour ces conneries, ouais, c'est la régalade. C'est pas fun.
Quand on est jeune, on aime le fun. Un fritant fou à tous les coups. C'est un nouveau parfum. Fun, c'est déodorant. C'est un parfum troublant. My baby, je t'aime tant.
C'est fun. On aime le fun. Fun à tous les coups.
Ah oui, qui aime le fun. Fun. Fun à tous les coups on aime.
Fun à tous les coups on aime. J'adorais cette pub moi. Ça c'est une évolution ça. Et, c'est les gestes aussi qui sont cool. Tu vois comment la dame elle se met du déo. Attends, regarde bien. Comment tu mets du déo comme ça? Attends, on dirait qu'elle se gaze à la lacrymo, la dame.
Quand on est jeune, on aime fun. Un parfum différent, fun, c'est déodorant. C'est un parfum troublant. My baby, je t'aime tant. Pour toutes les filles qui aiment le fun. Fun à tous les qu'on aime.
Voilà, c'était moi, ça me fascinait, moi. C'était, il y a le côté un peu pop, coloré des années 80. Tu vois, on mettait des habits de couleur à l'époque. Hein. Moi, j'avais des vêtements. Il y avait du rouge, il y avait du vert, il y avait du bleu. C'est les années 80, ça, c'est incroyable. C'est tout, plein, voilà, c'est une époque très colorée les années 80, c'est incroyable. C'est Benetton qui cartonnait à l'époque justement. C'est marrant, c'est que du Dailymotion. J'ai écouté celle-là, c'est une autre. Ah oui, c'est encore la dame qui fait comme ça là. Oh là 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 là, c'était bon tout ça. Fun, nanana, pub déo fun. Il y a des pages spécialisées sur YouTube. Hein. Voilà, c'est ça la ref. Voilà, vous l'avez la ref maintenant. C'est bon, je peux fermer mes YouTube là. Ah. Alors que le fun, il est un peu... On n'a plus la scène, ça. Oui, je sais, je vous montre plus, c'est juste pour le plaisir. On a perdu le fun. Oh, rien à voir, j'ai une oie. J'ai une oie qui a adopté des canetons dans mon jardin. Oh, c'est fun. C'est fou, c'est fun, Epsilon. Tu as une oie qui a adopté des canetons. Oh, pff, trop mignon. Oh oui, la photo. Oh, d'accord. C'est fou, c'est fun. On aime le fun. Fun, un parfum troublant. Fun. Moi, j'adore cette chanson. Attends. Je vous mets là. Mais si, bien sûr que je vous lis. Bien sûr que je vous lis dans le chat. Bien sûr, je lis les mails que vous envoyez sur YouTube, dans le chat Twitch. Bien sûr, qu'est-ce que vous racontez? Merci, Dame Nolta, pour le soutien. Merci, Nirispo. Merci, Solaf. Merci, Lifia. Merci, Mamie Zestouille. Merci, l'Extratovic. Merci, Eliora. Attends, je vais vous mettre la photo même. Attention, Samuel. C'est très militant, vos propos sur le fun. C'est... On aime le fun. Et hop.
Quoi?
Est-ce qu'elle est pas belle cette photo? Allez, quoi? Hein? Cette photo, elle va très bien avec avec ça.
Moi? Parce que, mais oui, bien sûr, votre parti.
Mais qui elle est, celle-là? Qu'est-ce que j'ai fait, moi?
Hein? Regardez, hé.
Moi? parce que, mais oui, bien sûr, votre parti.
Mais qui elle est, celle-là? Qu'est-ce que j'ai fait, moi?
Hein? C'était, je sais pas, à un moment, il y a un membre de la commission, je ne me rappelle pas qui, hein, je... Est-ce que c'est bien la peine de se rappeler? Qui, à un moment, m'a dit un truc, et j'ai fait cette tête. Ben, fais une émoji avec par pitié. Non, mais elle est marrante, en vrai. Elle est marrante.
Quoi? 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 Moi?
Hein? Tiens, on va, tu sais quoi, on va la garder, celle-là, on va la garder. Ah,
you fuck my wife. What?
C'est un peu ça, ouais. Le pire, c'est que tu te sers de l'eau en même temps. Oui, bah, j'arrive à faire. Oui, c'est quand même pas compliqué de faire une tête indignée et de se verser de l'eau en même temps. C'est fou, c'est fun. On aime le fun. Ah oui, c'est vrai que ça pourrait être aussi ça.
Quelle indignité.
Ah oui, c'est l'un ou l'autre. C'est hier soir, le Nexan, tu l'as... je vais te mettre le replay. Bah, quand il y aura le lien YouTube, je te mettrai le lien. La vidéo sur cet après-midi, mais le react, on l'a fait hier soir. 6h. Ouais. Ah oh, Mathieu est là dans le chat. Regardez, Mathieu qui gère la chaîne YouTube me dit qu'il y a... Attention, incroyable, roulement de tambour. Regarde Nexan, à 13h aujourd'hui, heure française, sera posté le react d'hier soir de 6h. Mon audition devant la commission de l'Assemblée nationale sera postée à 13h sur YouTube. Ok ? Voilà. Pour les abonnés sur Twitch, vous l'avez déjà. Voilà, vous avez le droit à un petit bonus. Donc vous l'avez déjà. Mais sur YouTube, ça arrive à 13h. Merci VX. Oh, Sugar qui dit sinon prenez un sub, les impatients. T'es gentil, mon Sugar. Merci beaucoup, Bouze. Ouais, ça a été compliqué, mais bon, ça va mieux. Merci. J'ai pas tenu, je me suis endormi vers 20h30. Bref, on l'a tenu jusqu'à 2h, nous. D'ailleurs, Sam, comment tu expliques le succès du live? Je ne sais pas. Fabricadon, c'était fou. C'était le 15 août à Saint-Trope. Vous étiez jusqu'à 14 000, non, hier soir? À 2h du mat, vous étiez encore 7 000 ou je ne sais plus. Je ne sais pas. Je ne peux pas répondre à cette question. Je ne sais pas pourquoi vous étiez si nombreux. Peut-être parce que vous avez senti que pour moi, c'était un 14K. Que c'était important. Que c'était un... voilà, c'était... Oui. Je pense que c'était pour ça, je pense. Ouais. Et puis bon, c'est pas tous les jours qu'on est invité à l'Assemblée nationale. Hein? J'aurais dû ramener une carafe. Merci FDLC. Merci Jaïsril. C'était hier soir Skulker. Ah oui, un moment, c'est Ronny Fleur de Paix qui me fait penser. Hier, on a déclenché une golden. Hier soir. Mais je n'avais jamais vu ça, moi. Parce que vous savez, tout vieux que je suis un peu un perdreau de l'année. J'ai plein de choses que je n'ai pas fait dans ma vie. Hier soir, on a eu une golden. Je ne savais pas ce que c'était. Exactement. Une pluie dorée, oui. Comment ça s'appelait? J'ai jamais vu ça dans le chat, là. Golden Train. C'était quoi le nom complet? Train Golden Kappa, c'est ça? En fait, on a eu une pluie de subs telle qu'à un moment, il y a un truc qui s'est déclenché dans le chat qui était... Non, c'était pas Golden Shower. C'est quoi une Golden Shower? C'était pas Golden Shower, c'était Golden Kappa Train. Ouais, c'est ça, Golden Kappa Train. C'est en même temps Twitch qui part qui est en mode, mais quelle est cette pluie de subs? Ouais, incroyable. Je n'ai jamais... En 5 ans sur Twitch, je n'avais jamais vu ça. Jamais. Merci Yamae. Regarde sur Internet ce que c'est une golden shower. Ben, je vais aller voir, oui. Je vais aller voir. Je vais aller voir tout de suite. D'ailleurs, je vais voir tout de suite, d'ailleurs. Comment tu dis golden. Golden Shower. Je fais quoi? Je fais Google Images.
Golden Shower. Golden Shower.
Ah bah j'ai trouvé. Bah je vous le mets. Mais je savais pas ce que c'était par contre moi.
Attends, j'ai un bug.
Ah mais il m'embête. J'ai trouvé dans un article qui s'appelle Salon. C'est comme ça, comme un salon. Voilà. J'ai tapé Golden Shower. J'ai tapé Golden Shower sur Google Images. Et on sait que le président américain, il aime tout ce qui est un peu doré. Quoi, vous savez qu'il a refait la déco de son bureau, la Maison Blanche, le bureau ovale, et en fait, il y a beaucoup d'or partout. Et tu tapes Golden Shower, mais vraiment, hein, tu tapes Golden Shower sur Google Images, t'as ça. Voilà. Donc, je pense que c'est de ça dont vous vouliez me parler. C'est intéressant. C'est fou, c'est fun. On aime le fun. Fun, un parfum troublant, fun, un déodorant, fun. Voilà, c'est ça dont vous vouliez me parler. Alors que normalement la règle c'est 30 minutes d'intro. C'est quoi ce bavardage? C'est quoi ce bavardage, hein? Et vous êtes 3498 à écouter ces divagations de papy là. Eh ben, c'est du propre. Faut bosser un moment, hein. Vagation? Ah bah oui, j'ai dit vagation. Ah oui, bah, je suis con. Eh oui, j'ai dit vagation, donc du coup, oui. Eh oui, donc du coup, vagation. Hein? Merci Stéphanie. Merci Gougouon Twitch. Merci Nevermind.
Merci Devigator.
Merci Devigator. On aime le fun. Bon, je vais prendre mon café. Mes collègues commencent à me regarder bizarrement. Bah évidemment, si tu leur parles de Golden Shower à voix haute... Quoi, t'es dans un open space et t'as lancé la cantonade très très fort. Eh les gars, c'est quoi une Golden Shower? C'est ça? Et les gens te regardent bizarrement? En chantant, on aime le fun, en plus. Samuel, tu comptes laisser ta photo comme ça? Oui.
Il y a un monde où je la mets en photo de profil, non?
Merci Crotte de nez. Oh, le pseudo, j'adore. Merci Crotte, plus loin de nez. C'est quoi ton prénom? Crotte. K-R-O-H-T. Salut Crotte. Et ton nom? Attends, ne me dis pas que tu t'appelles. Si, Denay, D-E-N-A-Y. Oh, 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 oh.
On aime le fun. Maintenant,
je fais un truc.
Attends. Non, c'est pas ça. Comment je fais pour... Comment je fais ça? Merde. Attends, je suis pas doué, j'arrive pas à changer ma photo. Le boulet. Éditer la photo, normalement c'est ça, ouais. Ah voilà.
On aime le fun. Attends. Voilà, appliquer. Enregistrer. Je suis bête. Il est bête.
Attends, ah oui, du coup, attends. C'est un truc de nombre de caractères, attends.
Voilà. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous voulez voir ma photo de ma pépé de compte X? Je viens d'arriver sur Twitch, que certains appellent le YouTube, où les gens envoient des mails dans le chat. Est-ce que vous voulez que je vous montre ma photo, ma pépé sur X? Ok, allons voir mon compte X. Balancer des mails dans le chat. Magnifico. Tu peux pas voir ton compte X et en protéger. Ah ouais, ouais. Ah, je me suis protégé du réseau du chétan. Faut me demander en ami, mais après, faut que je valide un par un. J'ai plein de nouveaux amis depuis quelques jours. Faut que j'aille voir les demandes. Ouais. Oh, ma vie a tellement été transformée depuis que mon compte est passé en privé là, je sais pas, il y a 3 semaines. Mon compte et ma vie a changé, mais ma vie est devenue. Mais tu vois les bisounours? Bah, plus chill, plus doux. Tu vois? Ma vie est magnifique, tu vois. Vous avez remarqué que depuis quelques jours il fait super beau, il fait super doux sur la France, les températures, la lumière, le soleil. Bah, c'est depuis que j'ai passé mon compte X en privé. Mais ouais. Tu dors quand Samu, je dors pas. On dormira quand on sera mort. Ah, qu'est-ce qu'on rigole. Oh, vous avez démarré un train de live, bon de foufou. Merci Toby84, merci Tonton Charlet, merci Monkey Watts, merci InsertCoin72, merci encore Crotte de nez, j'ai trop envie de redire ton pseudo. Enfin, les podcasts audio, pour l'exclamation podcast, depuis le mois de septembre, toutes mes revues de presse sont en podcast audio et vous êtes trop nombreux à les écouter, ça fait trop plaisir. Ouais, c'est trop bien. Bon, on va démarrer. Hein. Bon, allez, je vais prendre mon café et puis let's go. 45 minutes d'intro. On s'est fait plaisir ce matin. On s'est fait plaisir ce matin. Samuel Etienne. C'est fou, c'est fun! Merci Zouzoubri. Merci Little Twinnie. On aime le fun. Bon, allez, on va brancher la tablette que j'ai pas vérifiée. Il y a un monde où la carte d'acquis va pas marcher, mais c'est pas grave. On est fou, on aime le fun. Allez. J'ai des petites choses ce matin. Je vous montre même le sommet en avant-première parce que je vous aime. Hop là, des petites choses, des trucs pas inintéressantes. Accepte-moi sur. Oh, cette phrase est tellement bizarre. Il y a Vivix. Et même ton pseudo, il est bizarre par rapport à la question. Vivix avec un X écrit « Accepte-moi sur X ». Vivix me dit « Accepte-moi sur X ». Mais dans quel monde le... C'était bien Twitter. Dans quel monde Musk, il a rebaptisé Twitter X? Et du coup, ça donne des phrases bizarres. Voilà, « Accepte-moi sur X ». Pop, 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 pop. Pop, 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 pop. Ah. Comment ça, la version morandénique, quand on est fun, on aime les jeunes? Oh non. Ah non, 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 non. Ah non, non.
Quelle indignité.
Non, 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 non. Non, 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 non. Non, non. Merci Freerider. Merci Hot Exus. Non, 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 non. Tu l'as en replay sur YouTube, Tony Tonic. À partir de 13h, vous avez le replay sur YouTube. Allez, vous êtes prêts? Est-ce qu'on va faire un petit bonjour, un petit bonjour à nos amis qui nous écoutent en podcast, justement, puisque nous protégeons les esprits encore, pas naïf, mais nous protégeons les esprits encore préservés des auditeurs de podcast, de toutes les dingueries qui se passent ici. Voilà. Donc, en podcast, vous n'avez jamais l'intro. Voilà. Oui, encore pur et innocent, candide, exactement. Non, pas malléable, je ne dirais pas ça, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui écoutent des podcasts. Souvent, Public des podcasts, c'est un peu comme vous, tiens. C'est public un petit peu exigeant, public un petit peu. C'est des gens, souvent des gens brillants, tu vois. D'ailleurs, il y a des études scientifiques qui montrent que les viewers de Twitch, d'une manière générale, et les auditeurs de podcasts brillent la nuit. Hein. Et que s'il y avait plus d'auditeurs de podcasts et plus de viewers de Twitch, on pourrait se passer des réverbères. Parce qu'il y a une espèce de glow, si vous voulez. Et comme le dit Sugar Frog avec son langage de jeune, j'aime frayer un petit peu avec le champ sémantique des jeunes. Sugar qui écrit « Toute la commu est tarpin intelligente ». Voilà, c'est exactement ça. Ouais. Et donc, pourquoi je vous dis ça? Ah oui, parce que je préserve les auditeurs de podcast et je ne leur mets pas l'intro. Toutes les dingueries là, before, no. Ils ont que la revue de presse. Revue de presse, merci Blackbird. Et donc là, à un moment, je dis « Ouais, bonjour à tous, bienvenue à la revue de presse, comme d'habitude. » J'aimerais avoir cette capacité d'impro, je suis fan. La machine à prout, très beau pseudo, c'est hyper facile. Et tu fais comme moi, tu dors pas. Et à un moment, quand tu dors très très peu, comme là, cette nuit, en fait, y a plein de filtres dans ta tête qui tombent, qui s'effacent, qui ne marchent plus, en fait. Tu contrôles beaucoup moins ton propos. Il y a donc le chemin, la voie entre ce que tu penses et ce que tu dis est beaucoup plus direct. Donc voilà, tu dis beaucoup de bêtises. Oui, voilà, c'est ce qu'on appelle être en roue libre. Oh, merci Anto officiel pour ce raid, c'est adorable. Merci beaucoup Anto. Tiens, Alexandre Astier me dit Tom Jeff s'épuise à ne pas dormir pour mieux écrire. Il y a un truc avec le manque de sommeil, ouais. Ouais, il y a un truc avec le manque de sommeil qui, je pense, fait tomber des filtres. Ouais. C'est vrai que mes meilleures revues de presse, c'est quand j'ai pas dormi. Vous savez quoi? J'aurais dû ne pas dormir avant d'aller devant l'Assemblée. Oh, je me serais donné en spectacle, je me serais tellement donné en spectacle. Merci Dracouille. Alors c'est Dracouille, mais je pense que c'est Dracouille, mais j'ai envie de dire Dracouille. Il y a un monde où j'aurais dû ne pas dormir avant l'audition devant l'Assemblée. Pop, 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 pop. Oh, et là, cette tête que j'ai là, que je vous ai mis là, je l'aurais eu, mais pendant 3h30. Pendant 3h30, j'aurais eu cette tête pendant 3h30. Qu'est-ce qui me veut celui-là, tu vois? Ça aurait été incroyable. Et j'aurais lâché des sculptes, j'aurais été fou, quoi. Non, en quoi j'ai bien fait de dormir, du coup. Moi, j'ai aimé le moment d'Arc Samuel. Ah oui, quand je dis que moi aussi, je pourrais recontextualiser. Ouais, c'était mignon, ça. On a vu la fatigue quand t'as fait la blague du Brexit. Ouais, elle était pas folle, la blague du Brexit, j'avoue. Ouais. En fin de live, au bout de... En fin de live. En fin d'audition, j'ai fait une blague sur le Brexit qui était mais totalement claquée au sol. Oh là, la blague de Daron. Allez, 50 minutes d'intro. On y... Oh, c'est pas ça après, hein. On y va, les pruneaux? Ah oui, vous voulez que je vous tease un dernier truc? Vous voulez que je vous tease un dernier truc? Là, je viens d'annoncer un super cool festival, là, du 11 avril, pour l'exclamation festival. Festival MVP, baby. Mais j'espère, dans les prochains jours, vous annoncer un nouveau projet. Hein, vous aimez quand je vous tease, hein. J'ai vraiment le manque de sommeil. Vous aimez quand je vous tease, hein. Putain, mais c'est affreux, le manque de sommeil. Le manque de sommeil, en fait, je deviens un autre moi. Tu aimes quand je te tease. Oh, mais c'est monstrueux, en fait. Il y a vraiment un truc... Waouh. Bref. C'est affreux. Waouh. Heureusement qu'on m'a passé en podcast, hein. Ouais. Et donc... Donc je vous ai annoncé un truc assez gros là, donc le festival MVP pour l'exclamation festival, mais j'espère pouvoir, dans les prochains jours, mark my words, vous annoncer le plus gros projet de ma life de ces dernières années, depuis 5 ans. Mais vraiment, pas le petit truc en mode je vous troll et tout. Alors je, là, pour l'instant, zéro troll. Voilà. J'espère pouvoir vous annoncer dans les prochains jours mon plus grand projet depuis, depuis plus de 5 ans. Mais vraiment, je troll pas. C'est tout. Je ne dis rien. Mais vraiment, hein, et je troll pas. C'est pas un truc pour vous. Mini-indice, pas de mini-indice. C'est... Non, c'est pas le festival. Le festival, c'est fait. Je n'en dis pas plus. That's it. Hop. D'ailleurs, je vais cut le live. Ok. Quand j'espère dans les prochains jours. Mais voilà. Mais je vous troll pas. Allez, go. Est-ce qu'on y va pour le sommaire? Ça vous va? On commence la revue de presse? 53 minutes d'intro, ce serait bien. De faire une petite... Oh. Ah, ça, c'est intéressant, ça. Je vous dis, ah, j'ai pas vérifié ma carte d'acquis. Ah, bah, elle est bien, la carte d'acquis, là. Elle est pas mal, la carte d'acquis. Oh, c'est juste... Oh, c'est rien. C'est juste là. C'est juste là. Ah, que ça part de marcher très fort, quand même. Ah, on l'a eu un moment, puis on l'a plus, là. Waouh. Ah, on l'a de nouveau. Ah, tu sens que la carte d'acquis ne va pas bosser ce matin. Hein. Ok, ok. Oh oui, dis donc, elle est très en forme. Elle est très en forme. Très, très en forme. Waouh. Waouh. Elle est pétée, là. Elle est pétée. Incroyable. C'est juste le cadrage qui est fait? Non, je pense que c'est pas qu'une question de cadrage. Oh merde, on va pas faire de revue de presse, j'ai pas le... ça marche plus. Oh là là, ouais, on voit en live que ça marche pas. Je vais vous recréer la scène. Hein. Bon, on n'est pas 2-3 minutes près. Allez, let's go. Je vais vous recréer la scène. Donc on est sur... je vais aller sur... comment s'appelle boîtier d'acquis. Il faut que j'aille sur Blackmagic. Ouais, je vais voir où. Déjà, je vais voir si le boîtier d'acquis reçoit l'image. Ouais, je ne comprends pas un traître mot de ce que je viens de dire. Hein. Tintin. Ok. Ok, bonne nouvelle. Alors non, je pense que ça va se régler en 2 minutes. Ok. Decklink Quad HDMI Recorder 4. Donc, le boîtier d'acquis envoie bien un message à OBS. C'est OBS qui ne le reçoit pas. Ok. Eh bien, je vais recréer une scène iPad. On va pas se... de panique. Donc c'est un... Il faut que je crée un périphérique Blackmagic. Ok. On va appeler ça iPad 26 février. Tu vois. Tu vois la rigueur. Tu vois la rigueur du truc. Ok. Rendre la source visible. Ouais. Périphérique Blackmagic 4. Il le voit pas, j'ai l'impression. Auto. Ah merde. Ah, j'étais sûr de moi. Et c'est, là, ça marche pas. Et pourtant. Pourtant, il le voyait là, lui. Ah oui, attends. Ah, faut peut-être que je supprime celui-là. Je l'ai. Ouais, c'est parce que il faut que je supprime cette scène. Ok. Donc, je vais supprimer cette scène-là. Supprimer. Hop. Et non. Merde, j'ai tout cassé encore. Ok, je vais... Ah, c'est bon. Eh, les amis, vous voyez. Alors, je ne suis pas informaticien, je ne suis pas ingénieur d'informatique, mais j'ai appris un truc en matière d'informatique, c'est qu'il ne faut jamais stresser. Prendre son temps, pas s'énerver. Voilà. Voilà. Bon, là, c'est un boîtier d'acquis qui fait des siennes. Ouais, parfois il veut prendre le signal. Parfois, enfin en fait, c'est pas le boîtier d'acquis, c'est plutôt un bug OBS en fait. C'est-à-dire qu'en fait, là, moi, je vérifie par comment ça s'appelle? Blackmagic Media Express sur mon PC qu'effectivement le boîtier d'acquis envoie bien un message à OBS. Donc ça me permet de voir que de ce côté ça marche, c'est pas le boîtier d'acquis qui est problématique. Et du coup c'est plus un bug OBS. Bah, ce que je fais, c'est que je supprime ma source et je recrée une source. Voilà. Je coupe le son et je remets le son. Voilà. Et voilà, c'est réparé. Let's go! Sous les applaudissements. Merci Rafouch. Merci Pandame. Tadam! Bon, là on peut y aller. Sous vos applaudissements. Et alors, la fois, j'ai pris une leçon d'humilité parce que la fois, j'ai râlé contre OBS. Oui, c'est pas... j'ai fait mon boomer. J'ai fait mon boomer, dire oui, vous vous rendez compte, on va dans l'espace, on veut retourner sur la Lune, on crée des centrales nucléaires, on n'est pas capable de faire un logiciel stable, OBS. Il y a quelqu'un dans le chat qui m'a dit, mais Sam, OBS c'est un logiciel gratuit. Donc tu as le droit de râler contre un logiciel que tu payes, mais en fait tu n'as pas le droit de râler contre un logiciel gratuit. Et en fait ça m'a fait réfléchir. Donc vous avez vu là, j'ai pas râlé là. Une leçon d'humilité. J'ai dit bah ouais, t'as raison. Gratuit et open source. Ouais. Bah donc tu fermes ta bouche, Samuel. Hein, tu supprimes ta scène, t'en recrées une, tu vérifies deux, trois trucs et voilà. Voilà. Il faut mettre OBS en durée, exactement. Après, si tu utilises Streamlabs OBS au lieu d'OBS, c'est normal que tu galères. Oh non, je n'utilise pas Streamlabs OBS. Oh non, 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 vous êtes face à un professionnel. Non, non, ça. Ici, ça a streamé sur OBS tous les jours depuis 5 ans. C'est Étoile qui m'a formé, s'il vous plaît. Streamlabs OBS, tu veux quoi? Tu veux que je streame mon Minitel aussi? Non, 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 ouais. Oh, 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 oh. Stream de professionnel ici. Ok. Allez, on y va? Alors, est-ce que j'ai votre groupe pour la revue de presse? Parce que vous, ça traîne, hein. Vous traînez, vous discutez, vous posez. Ah, c'est fou ça. On peut pas bosser ici. Hein. Go, quand même. Allez, go. C'est parti. Ils sont... Je vous kiffe. Ok. 3, 4. Une heure d'intro, c'était pas mal. 3, 4. Bonjour à tous. Bienvenue dans la matinée Étienne, c'est votre revue de presse, c'est tous les matins depuis 5 ans, mais nom de Dieu, du lundi au vendredi, il y en a même une le samedi, voilà, on lit les journaux ensemble, la presse écrite quotidienne nationale, parce que je la kiffe, c'est mon petit choix éditorial, comme ça, on passe l'actualité en revue, choisit des actus, choisit des articles, on les met en regard, on les fait discuter ensemble ces articles, puis on en parle ensemble pendant des heures, c'est le kiff. Voilà. Bienvenue à mes amis qui nous écoutent tous les matins en live sur Twitch, qui nous regardent en replay sur YouTube et à nos amis qui nous écoutent en podcast audio. Depuis septembre, on est en podcast audio sur toutes les plateformes de podcast, les Apple Podcasts, les Deezer, les Spotify. Merci d'être aussi nombreux. Bon, on va commencer par un petit sommaire, en sachant que amis de podcast, je vous protège. Je vous protège. Je vous parle avec ma douce voix parce que je sais que vous m'écoutez quelque part dans les transports ou en faisant du sport ou en peut-être sur la route. Je vous protège. Avant cette revue de presse, il y a eu une heure d'intro. Une heure d'intro. Et l'intro, c'est que sur Twitch. Et l'intro, c'est la roue libre. C'est la roue libre, c'est un moment, voilà, on prend un fil, on tire un fil. Voilà. Et puis, puisqu'on tire le fil, forcément, à un moment, qu'est-ce qui se passe? On se retrouve à nu. Parce que quand il y a un pull, un fil qui dépasse d'un pull et que vous le tirez, bah si vous tirez trop, bah après vous êtes à nu. Et vous dites des bêtises, et vous racontez des bêtises, et on rigole. Mais ce n'est pas vraiment de l'actu, donc je vous protège de ça. Mais si ça vous intéresse, venez sur Twitch en live, on rigole bien. Pour cette revue de presse ce matin, on commence par un sommaire. Je vous raconte en quelques minutes de quoi on va parler ce matin. On va parler de politique. Voilà. Il n'y a pas d'énorme actu ce matin, mais il y a toute une série de petites choses intéressantes. On va parler des municipales, parce que bah, mine de rien, on se rapproche des municipales. Et ce matin, il y a un point sur la Macronie. Voilà. Les chances de la Macronie pour ces municipales, et plutôt l'inverse d'ailleurs, c'est-à-dire le peu de chances de la Macronie pour ces municipales. Donc c'est le premier article dont on parlera. Il faut peut-être que je vous montre l'article. C'est dans Le Parisien.
alerte rouge en Macronie. Dans les rares villes de conquête du bloc central, les sondages inquiètent de lourdes défaites, dont celle d'Edouard Philippe. Alors moi, c'est ça qui m'a interpellé. Merci Tinolka, mon petit shiny. Excusez-moi, je lis un message dans le chat. Trop chou.
Oh.
Allez, vous me le gardez, hein. Vous me le gardez, s'il vous plaît. C'est pour ma collection. Pas touche, hein. Pas tout. Pardon, ami de en podcast audio. J'adore échanger avec les viewers. Et là, j'en ai un bien. Je le mets dans ma collecte. Vous ne le touchez, hein. Vous n'y touchez pas, hein. Vous ne touchez pas à Tinolka, hein. C'est pour ma collègue. Et donc, voilà. Et Édouard Philippe, j'apprends qu'Édouard Philippe pourrait perdre la mairie du Havre. Le gars veut se présenter à la présidentielle. C'est chaud, en vrai. Et en fait, j'ai lu des papiers qui disent que ce matin, si Édouard Philippe perd sa mairie du Havre, bah, ça va être très compliqué pour la présidentielle, quoi. Donc, on va lire ce papier dans Le Parisien. Et regardez, exactement, MMG, tu as raison, ça peut le tuer politiquement, c'est exactement ça. Voilà. Et lui-même le reconnaît d'ailleurs. On va lire aussi Le Monde et la Une du Monde. Voilà. Et là, on se projette non pas vers la municipale, mais vers la présidentielle, mais toujours avec le bloc central ainsi que la droite, LR. LR et bloc central, nous dit Le Monde, la grande dispersion pour 2027. Bien qu'ils gouvernent côte à côte depuis juin 2024, les partis du centre et de la droite ne se projettent pas ensemble dans la conquête de l'Élysée, petite page politique ce matin, voilà. Les ambitions de Bruno Retailleau, d'Edouard Philippe, tiens donc, de Gabriel Attal, de Xavier Bertrand, de Gérald Darmanin, préfigurent un spectacle de désunion. Malgré le risque d'élimination de ce camp centre et droite républicaine dès le premier tour, les ténors de chaque camp estiment leur projet politique incompatible. Aïe. Le Parti des Républicains cherche le mode d'emploi pour choisir son candidat, l'organisation d'une primaire, et ses modalités ne font pas l'unanimité. C'est assez intéressant, en vrai. Hein. Parce que tout ça va avoir des conséquences importantes sur 2027. Hein. Parce que forcément, si le centre et la droite n'arrivent pas à s'entendre, en gros, vous avez compris, sur une candidature, c'est ce que nous dit Le Monde. Moi, j'essaie de voir un peu vers quoi on nous emmène. Bah, du coup, ça gonfle les chances de passage au deuxième tour, voire d'élection, tout court, d'un candidat RN, d'un candidat de gauche, on va dire social-démocrate, ou socialiste, d'un candidat écologiste, d'un candidat LFI, d'un candidat RN, j'espère que je l'ai dit, tout ce qui n'est pas centre et droite. Donc on va lire ce papier dans Le Monde ce matin, entre LR et macroniste, l'impossible candidat unique. Donc ça, c'est la petite page politique de ce matin. Ah, politique toujours. Est-ce que LFI, la France insoumise, est d'extrême gauche? Voilà, ça, c'est un débat intéressant. Jusqu'ici, le ministère de l'Intérieur... Salut Joe, ça va bien? Le ministère de l'Intérieur ne classait pas la France insoumise dans l'extrême gauche. Voilà. Contrairement au RN qui était classé par le ministère de l'Intérieur et par le Conseil d'État qui a validé cette classification à l'extrême droite. Mais LFI n'était pas classé à l'extrême gauche. Or, le ministère de l'Intérieur, il y a quelques jours, a décidé de classer, je pense pour les prochaines élections, c'est dans le cadre des élections municipales, LFI dans l'extrême gauche, et LFI vient d'être auditionné par le Conseil d'État pour contester cette décision ministère de l'Intérieur. Et donc, il y a un recours qui a été déposé pour être reclassé à gauche, hein, à rebours de la décision du ministère de l'Intérieur. Mais aujourd'hui, si on prend la définition du ministère de l'Intérieur, eh bien, LFI est désormais à l'extrême gauche. On en parlera, il y a un article dans Libération. Alors là, je vous ai remis la Une du Monde et vous allez me dire, mais il est vraiment vieux, il est plus étanche, le streamer, il remet le même article. Non, c'est toujours la Une du Monde, mais sur un autre sujet, sur Trump. On a vu Trump tout à l'heure, on a tapé Golden Shower sur Google Images et on a trouvé Donald Trump avec un pommeau de douche doré. Voilà. Et là, il ne prend pas sa douche, il a prononcé hier son discours, ce qu'on appelle le discours sur l'état de l'Union.
Face au Congrès, l'auto-célébration de Donald Trump. Merci Martin Lane. Dans son discours sur l'état de l'Union, mardi, le président américain a vanté un prétendu âge d'or. Pardon, des États-Unis. Non, parce que tout à l'heure, ne faites pas ça, les enfants qui nous écoutent. On a tapé Golden Shower, parce que le chat voulait absolument que j'apprenne ce qu'était une Golden Shower ce matin. Donc, je suis allé chercher en Google Images et on a trouvé. Donc, j'ai trouvé, hein, c'est un truc par rapport à Donald Trump. Et donc, c'est drôle parce qu'il se trouve que le président américain a inventé hier un prétendu âge d'or. Incroyable. Des États-Unis. Bon, moi, rien m'amuse, hein, vous savez. La population désapprouve pourtant largement sa politique économique au résultat mitigé. Qui a raison ? Une majorité des Américains qui disent ben, c'est pas foufou la politique économique de Trump, ou Donald Trump qui dit mais attends, mais c'est golden. Alors pas shower, mais age. Tu vois ? Merci Lily Spiel, merci pour le soutien. Voilà. Et vous avez un papier dans Le Monde sur ce discours sur l'état de l'Union, et Le Monde a estimé que c'était un discours de division. Merci Diamondbacks. Je suis dans le sommaire, je vais un petit peu vite, mais on va développer tout ça. La une des échos maintenant. Voilà, on va terminer avec ça, sujet pas très léger, mais que je trouve passionnant. Vous savez, l'un des débats sur l'IA, l'intelligence artificielle, c'est les conséquences sur l'emploi. Voilà. Là, je vais devenir sérieux parce que, pour le coup, je trouve que c'est un sujet qui est vraiment très, très, très sérieux. IA et emploi, le scénario noir, c'est quand même une des échos. L'IA va détruire en masse des postes de travail. C'est une nouvelle étude, nouvelle enquête d'un institut de recherche américain qui le dit. L'IA va détruire en masse des postes de travail. La baisse des salaires des emplois qualifiés à cause de l'essor des agents IA ferait reculer la consommation. Donc, moins de postes de travail, recul de la consommation à cause de la baisse des salaires. Wall Street et certains investisseurs commencent à s'inquiéter. Mais le débat sur cette possible catastrophe fait rage. C'est pas inintéressant. Hein ? Voilà. Et donc, on a un article, un dossier sur cette analyse d'une note américaine catastrophe qui prédit un chômage massif à cause de l'IA. Voilà. Et du coup, plus de chômeurs, moins de revenus, des salaires en baisse et une croissance qui va prendre cher. C'est fou, hein ? Enfin, on finira avec ce papier. Pensez quoi de mon petit sommaire de ce matin ? Voilà, de pas mille trucs, mais tout est assez intéressant quand même. Hein. C'est des heures de sélection, hein. C'est des heures de lecture. Ah, bien joué, papy, merci. Merci, Ariette. C'est pas mal, me dit Agent Fiscouille. Vu le contenu dans les journaux, belle sélection. Ah, mais Sugar, non seulement tu dors pas, mais en plus tu lis les journaux. Il parle pas de Samuel Etienne dans les journaux ? Très bonne remarque de Oz. Alors, j'ai eu l'insigne honneur de faire un tout petit peu l'actualité. C'était quand ? C'était hier ? Avant-hier ? Avant-hier ? Avant-hier ? Mercredi, on est quel jour ? C'était mardi l'audition. Et vous voyez que. Alors, c'est pas inintéressant. On a eu plaisir à le vivre, cette séquence, cette audition. Mais. Est-ce que ce qui s'est dit dans cette audition ce jour-là, est-ce que j'ai pu dire, moi, dans cette audition ce jour-là, est-ce que c'est suffisamment important pour figurer dans les journaux que je consomme le matin, hein, ces journaux que je kiffe assez, tu vois, la réponse est non. Voilà, that's it. Qu'est-ce que je pourrais vous mettre comme petite musique là-dessus ? Ah, si, peut-être. Bah oui.
For sure. Voilà.
J'aurais pensé que tu ferais une revue de presse cette audition. Bah non, parce qu'il n'y a pas grand chose à en dire en fait. Non, on a déjà fait le travail hier. Est-ce que vous êtes prêts pour le premier sujet ? J'attends votre go. Moi, c'est à la commande, hein. je suis à vos ordres. On y go ? Les gong, ok. Oh, les jeunes, c'est incroyable. Tiens, regarde, je lis un message tout à l'heure sur l'IA. Pana, station, salut, bienvenue. Pour être dans le milieu de la 3D, c'est un véritable carnage. Le marché actuel entre la généralisation de l'utilisation de l'IA plus les licenciements dans les studios, on se retrouve à 500 à postuler sur un poste dans la journée de sa publication. Voy. Ok. Allez, on y va, c'est parti. Premier sujet. Donc, une petite page politique pour commencer ce jeudi matin. On va commencer par les municipales. Alerte rouge en Macronie.
dans les rares villes de conquête du bloc central, c'est-à-dire les rares villes, en fait, des villes aux mains d'élus macronistes, il y en a très peu. C'est-à-dire que le mouvement lancé par Edouard Macron n'a pas conquis beaucoup de villes. Voilà. Mais dans les rares villes de conquête justement de ce bloc central ces dernières années, les sondages inquiètent. Donc on parle des prochaines municipales, de lourdes défaites, dont celle d'Edouard Philippe. Edouard Philippe, pourtant candidat à la présidentielle, pourrait bouleverser la campagne présidentielle. C'est intéressant, hein. Let's go. Article de Thomas Soulier. Thomas Soulier dans Le Parisien. Pour le camp présidentiel, les sondages se suivent et se ressemblent. Au Havre, Édouard Philippe pourrait perdre l'hôtel de ville au profit du communiste Jean-Paul Lecoq. À en croire un sondage OpinionWay, en tout cas publié mardi. À Nice, le maire sortant Horizon, Estrosi, Christian, se retrouve en danger face à son ennemi juré, l'UDR, Éric Ciotti. Voilà. 31%, 41% pour les deux hommes au premier tour des municipales. Sondage Cluster 17 pour Politico. À Paris, maintenant, Pierre-Yves Bournazel, Horizon, a perdu 2 points dans le dernier IFOP pour l'opinion. En gros, on dit que la municipale à Paris va se jouer entre Madame Dati et le candidat socialiste. Quoi. À Annecy, que Renaissance ambitionne de conquérir, l'ancien ministre de l'économie Antoine Armand ne creuse pas l'écart avec ses rivaux et ne fait plus figure de favori. À Bordeaux, la marche est aujourd'hui trop haute pour la tête de liste Thomas Cazenave, Renaissance également, Dixit, un cadre du bloc central. Bref, ça va être dur pour les macronistes. En cause de la vie de tous, l'étiquette macroniste qui fait du mal à nos candidats. Merci Lélie Spiel. Merci beaucoup. Constate amer un responsable centriste. Dati a démissionné du ministère de la Culture. Ah oui, tiens, je fais une petite pause là-dessus. Il y a 0 article sur ça ce matin. Et je pense que j'ai une analyse là-dessus à vous proposer d'ailleurs. Mais je la vérifie avant de vous dire de bêtises. Hop. Alors. Donc c'est tombé il y a 14h, c'est tombé hier soir. Donc il y a toute une série d'articles. Voilà. Mais... selon moi, c'est pas une info. Bah, voilà, merci Traoré 5 qui écrit dans le chat. Normal, c'est un non-événement. Camille me dit c'est bizarre. C'est bizarre, non. Ben non, c'est pas bizarre. Il y a zéro surprise. En fait, tout le monde savait que Dati allait démissionner de son poste de ministre de la Culture pour se consacrer au municipal. Voilà. Et donc c'était vraiment totalement prévu, en fait. Donc zéro info, zéro surprise. Et pourquoi je rigole un petit peu? Parce que hier soir dans le chat, des gens sont venus alors qu'on était en train de react l'audition en mode breaking news, urgent, il fallait cesser tout ce qu'on faisait, séance tenante, Dati démissionne. Alors moi j'ai vu ces messages hier soir et maintenant vous comprenez peut-être pourquoi j'ai pas réagi, parce que dans mon petit cerveau c'est oui, ok, c'est normal, voilà. Donc bah, toujours ne pas se précipiter, ne pas se... le truc du breaking news permanent, il se passe toujours des trucs de fou. Non, calmons-nous. C'était vraiment... Il y avait zéro info. Donc hier, quand j'ai vu l'info pop dans le chat, parce que je suis un vieux machin, j'ai été en mode, on peut en parler. Hein. Peut-être qu'il y aura des articles demain pour analyser ses chances au municipal, peut-être faire un bilan aussi, là avec un crible Google Actu très vite, j'ai vu qu'il commençait à y avoir des articles bilan sur son bilan à la culture, au ministère de la culture, ça c'est intéressant par contre, mais vous voyez, le mode hier soir, les gens qui popaient dans le chat, il y a eu 2-3 messages vite fait sur Dati a démissionné, et parfois il faut un petit peu se calmer sur l'actu. Donc, mais je pense qu'on en parlera demain, par contre je suis sûr qu'il y aura les articles demain, sur son bilan au ministère de la culture. Let's go, on y retourne. Donc voilà pourquoi. En cause de la vie de tous, donc l'étiquette macroniste, hein, qui pèse sur les candidatures macronistes au municipal, constate un ponte centriste. Jamais des élections locales intermédiaires n'ont réussi au pouvoir en place, par ailleurs. Donc c'est la double peine. Alors après 9 ans de mandat présidentiel, comment espérer faire mieux? Les électeurs sont lassés du contexte national et cela a des répercussions pour nous, constate un élu proche de Gabriel Attal. Autre raison invoquée, donc l'image macroniste qui fait du mal aux candidats avec cette étiquette au municipal. Les polémiques et divisions locales sur lesquelles les chefs nationaux ont peu de prise. À Nice, par exemple, la guerre Estrosi-Ciotti pourrait coûter cher au vice-président d'Horizon. Je crois comprendre que Ciotti, Éric Ciotti, président du parti UDR, serait favori. Il y a trois choses qui vont planter Estrosi, énumère une ministre. L'usure du pouvoir, la sensation du mandat de trop. L'endettement de la ville, parce que c'est le maire sortant, c'est ça, Christian Estrosi. Ainsi que la force de campagne de Ciotti. Bon, il y a un monsieur qui fait jouer de sa disqueuse dans la cour, là, si vous me dites si c'est trop bruyant, j'irai fermer la fenêtre. Vous me dites. On va laisser les gens bosser un petit peu. Vous entendez? Ah, il vient d'arrêter. Si c'est trop bruyant, vous me dites, je ferme la fenêtre. Vous entendez rien? Tout va bien. On va laisser les artisans bosser, hein. On va laisser tranquille. À Strasbourg, à Tours, à Besançon, certains candidats en difficulté dans les sondages refusent de se retirer malgré les appels incessants à l'union venant des directions de leur parti. Aujourd'hui, personne n'est costaud, à part le RN, reconnaît le premier vice-président du Modem, Marc Fesneau. On n'a jamais estimé que ce serait simple, atténu dans un doux euphémisme. Le monsieur élection municipale de Renaissance, s'appelle Robin Reda, va désormais s'ouvrir une bataille de la mobilisation. L'ex-député mis sur une campagne éclair une semaine avant le premier tour. Une campagne éclair une semaine avant les municipales. Faut partir, à mon avis, pour une municipale, il faut partir de beaucoup plus loin, quoi. Et un réveil des électeurs modérés qui refuseraient le combat entre les extrêmes. Et si cet électrochoc n'a pas lieu, que diront les états-majors au soir du second tour? Donc si c'est une catastrophe pour les candidats macronistes, qu'est-ce que diront les états-majors? Tous les partis du bloc central ainsi que les républicains pourraient revendiquer à Lyon la victoire de Jean-Michel Aulas qui n'est pas encarté. Ah, c'est vrai. Ah oui, on a gagné Jean-Michel Aulas, qui serait aujourd'hui l'ancien président de l'OL, qui est un entrepreneur par ailleurs, le favori à Lyon. Voilà. Sauf que il a pas la carte d'un parti. L'enclencheur, c'est quoi? C'est l'histoire des mails dans le chat de ce matin, je comprends pas. Alors, je vous explique. Il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, je t'ai envoyé un mail dans le chat. » Alors, je te donne la ref. Un homme politique... membre d'une commission de l'Assemblée sur l'audiovisuel public a voulu interroger un streamer. Salut Citron Violet, un raid du Japon. Les modos, n'hésitez pas à épingler la chaîne de Citron Violet qui est un français formidable qui stream depuis le Japon. Salut ami de Citron Violet, on est en train de lire les journaux ce matin, on parle un peu des municipales et de politique. Et dans le chat, quelqu'un me posait la question à l'instant, ami Citron Violet, mais pourquoi vous parlez de mail dans le chat? Je comprends rien sur YouTube. Alors je donne le contexte. Il se trouve que récemment, un homme politique français, membre de la commission nationale, la commission de l'Assemblée nationale sur l'audiovisuel public, a interrogé un streamer. Et en interrogeant ce streamer sur Twitch, il a dit vous qui, avec votre communauté sur YouTube, échangez sur l'actualité en lisant les mails que vous envoient les membres de cette communauté. Donc, dans la même phrase, Twitch, YouTube, mail, chat, quoi. Voilà. Donc, c'est devenu une petite blague pour dire que, parfois, avant de poser des questions sur un sujet, il fallait peut-être bosser ce sujet. Et on poursuit la lecture de cet article. Et si cet électrochoc majeur n'a pas lieu, que diront les états-majors? On vient d'en parler. Donc, ils pourraient se féliciter de la victoire de Jean-Michel Aulas, par exemple, à Lyon. Voilà. Maigre lot de consolation qui ne suffira pas à cacher la cuisante défaite. Au siège de Renaissance, l'entourage de Gabriel Attal a martelé que ce n'est pas le nombre de villes conquises qui comptera in fine, mais celui des conseillers municipaux. Hein. Seule ambition affichée par le parti, donc, au niveau de Renaissance, faire son entrée au sein des exécutifs locaux, notamment en vue du prochain scrutin sénatorial. Parce que, vous le savez, qui élit les sénateurs, ce qu'on appelle les grands électeurs, que sont notamment les conseillers municipaux. Donc, faute de grive, on mange des merles. On n'aura peut-être pas beaucoup de maires et mairesse, mais on aura peut-être des conseillers municipaux, ce qui nous permettra de peser au Sénat. Mais une autre campagne va rapidement chasser celle des municipales. Dès la fin mars, la course à l'Élysée sera lancée. La course élyséenne aux petits chevaux, dit le Parisien. Si Renaissance venait à perdre à Bordeaux,
À Annecy, Gabriel Attal ne serait pas sous les meilleurs auspices pour accélérer et déclarer sa candidature. Et idem pour Édouard Philippe, hein, au Havre. Et si Horizon devait notamment rayer Nice de sa carte de France électorale, Édouard Philippe ne serait plus fragilisé. Il faudrait assumer la défaite, reconnaît Penaud, l'un de ses proches. On n'a pas créé Horizon pour gagner des municipales, mais pour le scrutin d'appel, réplique un autre. Toutefois, si le Havre retombait dans l'escarcelle des communistes, Édouard Philippe a déjà annoncé qu'il tirerait un trait sur la présidentielle, alerte maximale. Ça, je ne le savais pas. Mais Édouard Philippe a dit, candidat à sa réélection au Havre, si je perds les municipales, je ne me présente pas à la présidentielle. Pour le coup, ce qui va faire les affaires des autres candidats du centre, du camp macroniste et de la droite, bien sûr. Promis, bah, il l'a dit. Le fera-t-il vraiment? Bah, il l'a un peu promis quand même.
Quoi? Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous dites dans le chat? Que parfois un responsable politique ne tiendrait pas ses promesses? Pop, 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 pop. Quelle indignité!
Qu'avez-vous à dire pour votre défense?
Wallah, c'est pas moi.
Bon, bah, à quitter, tu peux y aller. Ah bah, il a dit voilà! Ah bah, si, voilà, ça marche!
Ouais, donc voilà. Il y a un petit coup de projecteur dans Le Parisien aussi sur Pierre-Yves Bournazel. Alors moi, je vous avoue que je ne commence que maintenant à m'intéresser aux municipales. Hein. Donc là, manifestement, ça nous parle des municipales à Paris. Signe d'une campagne qui s'annonce compliquée pour le Bloc central, nouvelle illustration. Pierre-Yves Bournazel, candidat Horizon à la mairie de Paris, ici en meeting, s'est affranchi de la ligne du parti, refusant tout ralliement au second tour. Lisons cet article, c'est intéressant, parce que bon, Paris, c'est pas une petite ville quand même. Le secret a été bien gardé jusqu'à la dernière minute avant son interview sur France Inter mercredi matin. Pierre-Yves Bournazel n'avait rien dévoilé à ses soutiens parisiens. À 7h50 sur la radio publique, le candidat à la mairie de Paris, soutenu par Horizon et Renaissance, lâche « Je ne rejoindrai ni Grégoire », donc c'est le candidat socialiste, « ni Dati », la candidate, elle se présente sous quelle couleur ? LR, Madame Dati. Alors ce qui est étonnant, c'est qu'elle a le soutien du président Macron. On a lu un papier il y a 15 jours. Que Madame Dati avait le soutien du président Emmanuel Macron, par ailleurs. Et donc Bournazel, il dit, moi, je ne rejoindrai ni Grégoire ni Dati au second tour, je mène une campagne pour gagner, alors que depuis deux semaines, il excluait seulement une alliance avec le socialiste Emmanuel Grégoire, laissant penser qu'un rassemblement avec Dati était envisageable. Voici donc venu l'heure de la clarification. Lui, il dit, je ne rallierai ni la droite, ni la gauche. Voilà. Donc c'est un petit peu un coup de tonnerre dans la campagne municipale parisienne. Deux hommes seulement étaient dans la confidence, Édouard Philippe et Gabriel Attal, respectivement patron d'Horizon et de Renaissance, avec qui le candidat avait tenu un meeting commun le 10 février. Mais que leur a-t-il dit au téléphone mardi? Il les a prévenus, mais le ton ferme définitif sur France Inter les a surpris. Bon, c'est blabla politique, ça, je sais pas pourquoi je vous lis ça, on s'en fout. C'est pas ça qui est intéressant. Comment il a annoncé ça à ses potes, hein? Ok. Voilà. Bon, ils sont pas contents, quoi. Ah, ils sont pas contents parce que Édouard Philippe n'envisage pas que son candidat et donc son parti fasse perdre la droite dans la première ville de France. Ah, ok. Si publiquement l'ancien Premier ministre, donc Édouard Philippe, pèse ses mots, en coulisses, ses alliés ne cachent pas leur colère. Je suis scandalisé, c'est suicidaire et irresponsable. Donc il parle donc de Bournazel qui dit ni, hein, ni gauche ni droite. Moi, je me rallie à personne. C'est ce que dit le ministre Renaissance. Suicidaire et irresponsable. L'ivresse narcissique n'est pas unilatérale. Tacle un soutien Horizon en reprenant les mots de Pierre-Yves Bournazel vis-à-vis de Madame Dati. Bon, on est un petit peu dans la cuisine poétique électorale. En déplacement de campagne, la maire du 7e, Madame Dati donc, qui a démissionné dans la soirée du ministère de la Culture pour mener sa campagne. Donc là, c'est littéralement 1, 2, 3, 4 lignes dans Le Parisien.
dans le chat hier, il y en avait deux ou trois qui étaient en mode waouh, énorme, Dati a démissionné. Voilà, voilà l'info, ce qui était totalement prévu. Donc Madame Dati lui a répondu vertement, je pense que c'est une aventure très solitaire. Donc oui, Madame Dati, elle est fragilisée aussi un petit peu par ça, parce qu'elle aurait pu compter sur les voix collectées par M. Bournazel au premier tour. Je pense que c'est une aventure très solitaire, parce que c'est sa responsabilité, a dit Madame Dati. Ceux qui veulent nous rejoindre, qu'ils nous rejoignent. Je ne suis pas de l'équipe de ceux qui veulent l'échec. Ça, il faut que je me le note pour mes futures campagnes électorales, ça. Ça, c'est une phrase importante. Vous la notez avec moi ? Faites-moi penser, quand je me présenterai à un truc, il faut que j'utilise ce slogan. Je ne suis... Attends, je vais vous le faire en mode slogan. Je ne suis pas de l'équipe de ceux qui veulent l'échec. C'est pas mal, hein ? Qui veulent l'échec. Il faut que je dise l'échec, parce que l'échec, on va me dire, Monsieur Étienne, encore de l'argent public. Encore de l'argent public. Non, il faut bien que je dise l'échec. Si je dis l'échec, ça va encore me retomber sur le pif. Alors attends, je la refais. Voilà. Attends, c'est où ? Je ne suis pas de l'équipe de ceux qui veulent l'échec. Ouais, c'est mieux. Voilà. C'est vrai que quand tu fais une campagne, c'est mieux de dire que tu vises la victoire, quoi. T'imagines si tu changes la phrase, hein ? Je ne suis pas de l'équipe de ceux qui veulent la victoire. Voilà la campagne. Hein. Ouh ! Ne vous méprenez pas. Je ne suis pas là pour gagner. Je suis là pour vous faire perdre votre temps. Gagner ? Non, non, non. No rosé. Non, non rosé. No c'est bueno. Tu vois ? Ouais. L'important, c'est de participer. Bah oui. Nous, on veut la victoire à telle enchérie. Ce qui est quand même une déclaration assez surprenante d'une candidate à une élection qui dit qu'elle vise la victoire, estimant qu'Edouard Philippe a été responsable en recadrant son poulain. À la veille de la clôture des listes pour ces municipales, le frondeur Bournazel sera-t-il sanctionné ? Et pas mal tout article, en fait, c'est rigolo. Personne ne l'imagine, et lui reste le candidat Horizon Renaissance. Dans son camp, certains imaginent in fine une fusion technique, c'est-à-dire un assemblage de listes sans siéger ensemble dans la majorité au Conseil de Paris. Avec le camp Dati ou un accord sur des postes après le second tour. Voilà. Petite cuisine électorale. Ou même un décrochage dans les sondages qui pourrait le faire glisser sous la barre de qualification des 10%. Bref, toutes les options sauf celles prônées par le candidat. Intéressant, hein ? Municipal à Paris, là. En gros, ça va se jouer entre Madame Dati et Monsieur Grégoire, quoi. A priori. Après, une campagne, c'est jamais... ça peut être plein de surprises aussi. Oui, quelqu'un me dit, Samuel, alors tu le dis pas comme ça parce que t'es gentil, mais t'aurais pu le dire comme ça. Samuel, tu trolles et t'es pas rigoureux. Il y a des candidatures de témoignages. Il y a des gens qui se présentent à des élections qui savent qu'ils vont pas être élus. Voilà. Tu prends l'exemple de NPA, le nouveau parti anticapitaliste. Je n'ai pas souvenir que le NPA ait promis à ses électeurs la victoire. Ce sont des candidatures de témoignages, des candidatures pour porter des idées, pour qu'il y ait du débat. Voilà. Et donc tu as raison. Donc là, je troll un petit peu. Mais en même temps, un candidat qui se présente à une élection, mais sans caresser l'espoir de la victoire, c'est un peu étrange, mais évidemment que tu as raison. Bien sûr. Alors Sugar Frog me rapporte et me rappelle une information essentielle, hein, sur cette élection municipale à Paris, c'est que les scores de Madame Chikirou, LFI, si je dis pas de bêtises, et CNAFO, Reconquête, hein, le parti d'Éric Zemmour, vont impacter le duel Grégoire versus Dati, parce que Madame Chikirou et Madame CNAFO sont crédités, d'après les sondages, de scores qui ne sont pas ridicules. Et ça va peser également sur le scrutin. Très bonne remarque. Moi, ce que je te conseille, c'est vraiment de t'intéresser à l'actualité, d'essayer de consommer des médias différents. Moi, je kiffe la presse écrite, mais il faut aimer lire. Tu vas voir que si tu t'intéresses à l'actualité, tu vas aiguiser progressivement tes analyses citoyennes, sans utiliser des grands mots, mais tes convictions, tes valeurs. Quelqu'un me demande, en fait, pardon, je vous explique pourquoi je dis ça. Esnance dit: bonjour Samuel, je souhaiterais m'intéresser plus à la politique car je ne me retrouve dans aucun des partis actuellement en vue. Cependant, je ne sais pas comment me former à cela et comment trouver les bonnes informations afin de me faire un avis. Aurais-tu un conseil en ce sens? Moi, le conseil que je pourrais te donner, c'est de t'intéresser donc à l'actualité sur les en choisissant les médias que tu préfères, qui te sont les plus agréables à consommer. Et puis en fonction de ça, tu vas voir que ta réflexion sur l'actualité, elle va se former. Et puis tes opinions vont se former, tes valeurs vont s'affirmer. Et puis, en fonction de ça, tu vas te rendre compte qu'il y a des partis politiques. Là, c'est là où moi, je donne un conseil de vieux, mais que je trouve pas si inutile, c'est de lire les programmes aussi. Et tu vas trouver des partis politiques qui vont, dont les promesses, les programmes vont entrer en résonance avec tes opinions et tes valeurs. Oui, mais c'est dur parfois de choisir, parce que moi, par exemple, les Dynamite Gold, je suis ni noir ni blanc dans mes choix, c'est pas binaire. Mais bien sûr, c'est toi qui as raison d'ailleurs. La vision binaire de la politique, parfois, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus pertinent. Mais c'est très difficile de choisir pour qui voter. Hein. C'est pas une mission facile, hein. C'est une mission très compliquée. Hein. C'est très compliqué. C'est un travail exigeant, important, mais c'est un travail compliqué. Et Sugar rappelle effectivement qu'aucun programme, tu as raison. Alors c'est vrai que moi c'est un truc que j'expliquais souvent. Aucun programme ne va suivre 100% de tes convictions. Et donc l'idée c'est de choisir le plus proche. C'est une remarque de bon sens. C'est-à-dire que tu vas forger tes opinions sur le monde dans lequel on vit, notamment en t'intéressant à l'actualité. Et à un moment, tu vas voir que certains partis sont très loin de tes valeurs et tes opinions. Certains sont plus proches. Mais ce qui est sûr, c'est que tu ne te retrouveras jamais à 100% dans un programme. Le seul programme dans lequel tu vas te retrouver à 100%, c'est celui que tu pourrais construire toi. Salut mon pantoufle. T'as vu, tu l'as bien aimé la pépé? Ah, tiens, pantoufle, c'est cadeau, regarde. Le seul programme qui reprend 100% tes idées, c'est ton programme si tu te présentes. Si tu ne te présentes pas, la solution, c'est de trouver le programme le plus proche de tes idées. Ouais. Parlons de politique encore, mais on va parler de la présidentielle maintenant. Avec encore le bloc central et la droite, mais côté présidentiel. Et il est certain que les municipales, qui est un scrutin local, vont avoir des conséquences sur cette élection présidentielle. C'est donc la une du Monde, vous le voyez. LR et bloc central, la grande dispersion pour 2027. Merci Caillot Caillode. Merci Ice Cream, merci Bobache. La grande dispersion pour 2027. Alors, pardon, je fais encore une parenthèse. Entre programme et réalisation, bien sûr, Demons ban Draconiros. Mais bien sûr, quand j'étais surpris de ne pas le lire plus, mais vous l'avez peut-être vu écrit, puis je ne l'ai pas vu. Quand je dis lisez les programmes, évidemment, la première remarque qu'on doit me faire, c'est t'es gentil, Samuel, parce que les politiques, est-ce qu'ils appliquent leurs programmes? Est-ce qu'ils appliquent leurs promesses? Pas toujours. Évidemment. Il y a plein de promesses non tenues dans un programme. Il y a aussi un côté séduction avec parfois des choses même qui sont irréalisables. Donc évidemment, je ne vais pas vous dire que un programme d'un parti ou d'un candidat, c'est l'alpha et l'oméga de son action politique à venir. Il y a un côté marketing. Et puis après aussi, il y a la réalité des situations et des faits. Parfois, on peut aussi leur prêter de l'honnêteté parfois et de l'engagement. Parfois, il y a vraiment des envies de changer les choses. Et quand t'arrives, par exemple... aux manettes, au pouvoir, confronté à la réalité et pas juste au débat des idées dans les caméras de télé ou sur les marchés à tracter, tu te rends compte que c'est plus compliqué. Hier, on a lu un papier qui parlait du bilan des maires RN en France, et l'article prenait l'exemple d'un maire RN qui avait été sanctionné par son parti, le Rassemblement National, parce qu'il avait inauguré une mosquée dans sa municipalité. Voilà. Et donc, entre le discours, les idées, les promesses et la réalité du terrain, la complexité du terrain, hein, le fait que justement rien n'est blanc et noir et que c'est la réalité beaucoup plus complexe à analyser et à vivre, c'est comme ça que ce maire et reine avait été amené à inaugurer une mosquée par exemple. Voilà. Donc oui, bien sûr que, je ferme ma parenthèse, oui, bien sûr que lire les programmes, ça ne suffit pas. Mais, malgré tout, il y a une part importante, souvent, de ces programmes qui est réalisée. Quand vous prenez, si vous prenez l'exemple du président Macron, dans ses réformes les plus importantes et aussi les plus polémiques, réforme du marché du travail, réforme de l'assurance chômage, réforme des retraites, les plus importantes et souvent les plus polémiques. Tout est dans son programme. Bien souvent, ce qui fait polémique, ce n'est pas tant les promesses non tenues, c'est les promesses tenues. Tous ces sujets que je viens d'évoquer et qui ont provoqué énormément de débats et beaucoup d'opposition aussi, c'est dans le programme de Macron. Donc je ne dis pas que les politiques tiennent leurs promesses et appliquent tous leurs programmes, mais je dis que bien souvent, on ferait mieux de lire les programmes parce que souvent, ce qui arrive, c'est ce qui est écrit et c'est ce qui est annoncé. Voilà. Quand ils le peuvent, confrontés à la réalité du terrain, bien sûr. Voilà. C'est là où la lecture des programmes n'est pas inintéressante. Je ferme la parenthèse. Donc la présidentielle 2027, LR et Bloc Central, la grande dispersion pour 2027, bien qu'ils gouvernent, c'est la une du Monde, côte à côte depuis juin 2024, les partis du centre et de la droite ne se projettent pas ensemble dans la conquête de l'Élysée. Les ambitions de Bruno Retailleau, d'Édouard Philippe, de Gabriel Attal, voilà, de Xavier Bertrand, de Gérald Darmanin, préfigure un spectacle de désunion. Malgré le risque d'une élimination dès le premier tour de la présidentielle, les ténors de chaque camp, dont on vient d'évoquer les noms, estiment leur projet politique incompatible. Il n'y a aucun monde où on s'accorde, où on s'entend, hein, où on s'unit. Le Parti des Républicains, du coup, cherche le mode d'emploi pour choisir son candidat. L'organisation d'une primaire et ses modalités ne font pas l'unanimité. Dans le camp présidentiel, certains proches de Macron défendent la candidature de Jean Castex ou de Sébastien Lecornu. Lisons ce papier. Entre LR et macroniste, l'impossible candidat unique. Merci Hilderan, tout va bien. Alors que certains élus du camp présidentiel appellent à une primaire avec la droite pour 2027, les principaux candidats refusent d'y participer, tandis que se pose la question de l'incompatibilité des lignes politiques. Éparpillés façon puzzle. Bon, ça rappelle un célèbre film. Les Tontons Flingueurs, je pense. Attends, on se fait la vidéo ? Souvenir. Aux quatre coins de Paris, je veux. Aux quatre coins de Paris, je vais. Ah, je sais plus, c'est un strat. Attends. Aux quatre coins de Paris. Je l'ai plus. Je vais te dire. Ouais, touche pas. C'est Tonton Flingueur. YouTube. C'est mythique, hein. C'est mythique, bien sûr, c'est mythique. Enfin, pas mythique, pas le truc de rencontre, là. MY.
Ah, mais t'as déjà vu ça? En pleine paix. Il chante et puis il craque un bourre-pif. Mais il est complètement fou, ce mec.
Mais moi, les dingues, je les soigne.
On va lui faire une ordonnance.
Et une sévère. Je vais lui montrer qui c'est Raoul. Aux quatre coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts, façon puzzle. Moi, quand on m'en fait trop, je correctionne plus. Je dynamite.
Je ventile.
Je ventile.
pour ceux qui ne connaissent pas le film, donc les Tontons Flingueurs, tout le film est comme ça. Tout le film est comme ça. Les dialogues sont fous. Voilà. C'est réplique culte sur réplique culte. C'est un truc monstrueux. Voilà. Là, c'est un tout petit extrait, mais tout le film est comme ça. Et pour le coup, ça, en vrai, ça a bien vieilli. C'est assez étonnant. Donc, pour les plus jeunes, ceux qui ne connaissent pas, les Tontons Flingueurs, c'est à voir. Vous arrêtez pas côté noir et blanc, c'est juste une dinguerie. Je reviens à l'article. Éparpillé façon puzzle, vous avez compris la ref. Pardon. À 15 mois de la présidentielle, les partis du centre et de la droite, c'est notre sujet ce matin, qui gouverne actuellement qu'un cas depuis la dissolution de l'Assemblée de juin 2024, ne se projette pas ensemble dans la conquête de l'Élysée. L'acte de candidature du président du parti Les Républicains, LR, Bruno Retailleau, à la mi-février, préfigure le spectacle de la désunion redoutée par certains élus de Renaissance, Horizon, Modem, LR. La candidature du chef de la file de la droite, donc Retailleau, la candidature de Retailleau, vient s'ajouter à celle issue de l'ancienne majorité présidentielle. Hein, le maire du Havre, Édouard Philippe, est déjà en campagne pour Horizon. Chez Renaissance, c'est Gabriel Attal qui prévoit de se lancer après les municipales. La liste des prétendants à la succession d'Emmanuel Macron pourrait s'allonger encore à droite et au centre avec Xavier Bertrand, le président de la région des Hauts-de-France, en conflit ouvert avec Retailleau et sa ligne droitière. Xavier Bertrand, c'est un homme de droite, mais qui est opposé à l'extrême droite depuis, depuis très longtemps. Voilà. Quand le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, dit lui aussi songer à une éventuelle candidature. Comme le dit avec beaucoup de poésie MMG, c'est un bordel. Oui. Ce qui n'empêche pas ce dernier, donc Darmanin, d'alerter sur le risque d'une déroute électorale. Si on est plusieurs candidats de la droite et du centre, nous ne serons pas à la présidentielle au second tour. Et donc nous laisserons nos électeurs choisir entre deux extrêmes. Et ils nous en voudront, dit Darmanin. Comme lui, nombre d'élus de l'aile droite du camp présidentiel estiment que cette profusion de candidatures contrevient à toute logique électorale. Car dans la tripartition du paysage politique, le bloc central et la droite, coincés entre la gauche et l'extrême droite, partagent une partie de leur base électorale. Ça, c'est clairement expliqué. Les élus craignent donc une dynamique de vote utile émerge dès le premier tour de la présidentielle en favorisant le duel entre le candidat du RN ou la candidate du RN et celui de la France insoumise. Lors du second, face à la faiblesse et l'éclatement des candidatures. Alors, est-ce qu'on aura ce deuxième tour en 2027 entre un candidat LFI et un ou une candidate RN ? Partant de ce constat, il milite donc pour l'organisation d'une primaire afin de désigner un candidat commun, à droite et au centre, qui pourrait conduire une coalition sur un projet fédérateur avec leur ancienne famille politique. Non, Alex. Non, jamais. Mais je sais que c'est OK pour eux. La primaire de la gauche crée une nouvelle pression. Nous avons, nous aussi, besoin d'un débat démocratique pour nous donner de l'élan, fait valoir la ministre Aurore Berger. Ce système de départage, donc la primaire commun, permettrait d'éviter une sélection darwinienne par les sondages qui enclencherait une guerre d'usure entre les différents candidats du centre et de la droite, démobilisant leurs électeurs. Parce que les électeurs peuvent aussi se fatiguer de ce spectacle de division. Quoi. Il est intéressant cet article. Hein. Si le débat de la primaire s'est imposé au sein du socle commun, sa traduction politique débouche pour l'heure sur une impasse. Donc tout le monde est OK pour parler d'une primaire, mais pour l'organiser, c'est autre chose. Si le débat de la primaire s'est imposé au sein du socle... Je suis en train de lire la même phrase, putain, l'âge du streamer, quoi. Donc je la relis, hein, je suis lancé. Si le candidat de la primaire s'est imposé au sein du socle commun, sa traduction politique débouche pour l'heure sur une impasse. C'est moi ou il y a de l'écho ? Je crois qu'il y a de l'écho. L'hypothèse séduit non seulement des macronistes venus de LR en mal de notoriété et questionne sur une mécanique qui favorise les candidatures les plus radicales sans garantir que les perdants soutiennent le vainqueur. Les principaux prétendants refusent de se soumettre à une telle primaire. Édouard Philippe reste marqué par l'échec de son mentor Alain Juppé à la primaire de la droite 2016. Bruno Retailleau préfère lui un plébiscite des adhérents LR et Gabriel Attal espère s'imposer par sa popularité. Bon, chacun privilégie la voie qui lui permettrait d'arriver en tête de ce camp. L'érosion sondagière d'Édouard Philippe, un tant candidat incontesté des macronistes, donne des appétits à ses concurrents qui s'imaginent pouvoir doubler M. Philippe. À ce stade, ils se retrouvent tous dans un mouchoir de poche, constate le directeur général, délégué d'Ipsos Brice Teinturier, donc le sondeur, Gabriel Attal et Édouard Philippe sont quasiment au même niveau, donc pourquoi l'un se retirerait au profit de l'autre ? Aïe ! Eh oui ! Ce débat sur la tenue d'une primaire élargie déclenche aussi une réflexion existentielle pour le bloc central. À l'approche de la fin du mandat d'Emmanuel Macron, l'ancienne majorité présidentielle, donc Renaissance, Modem, Horizon, ne parle plus d'une seule voix, gangrenée par les rancunes, les dissensions idéologiques, les ambitions personnelles. Les primaires laissent plus de sang sur les murs qu'elles n'apportent de solutions, et encore faut-il que tous les candidats soient sur la même ligne, résume Hervé Marseille, président de l'UDI. Pour Retailleau, qui croit mordicus au retour du clivage gauche-droite, c'est intéressant, mais est-ce que c'est l'image que nous renvoie le paysage politique actuel, ça, le retour du clivage gauche-droite? Ça ressemble un peu à un vœu pieux. Pour Retailleau, tout en ayant été ministre de l'Intérieur sous Emmanuel Macron, la question d'une alliance avec le camp présidentiel ne se pose pas. Quand on a des projets qui sont différents, on ne peut pas marier l'eau et l'huile aussi facilement, a-t-il balayé sur LCI. Il peut y avoir une primaire avec des ex-LR, Darmanin, Le Cornu, Philippe, mais avec Attal, c'est impossible. Ça n'est pas le même espace politique. Le secrétaire général de Renaissance partage ce constat. Attal exclut tout projet de société commun, a fortiori, pour une élection présidentielle entre le camp macroniste et LR, ne voyant dans le socle commun qu'une alliance de circonstances. Donc ce candidat commun de la droite républicaine et du centre, il est pas prêt de sortir, quoi. Et notamment parce que les macronistes ne se retrouvent pas, par exemple, dans les idées de Retailleau. Hein ? Ah, très bonne question de Zorx. Tu disais tout à l'heure qu'il fallait voter pour le parti qui représentait le plus nos idées, mais je me demandais quelles en sont les limites. Faut-il voter pour celui qui nous plaît, alors même que l'on sait qu'il ne passera jamais ? Ou faut-il privilégier un parti peut-être moins en adéquation avec nos valeurs, mais qui ont plus de chances de passer ? En fait, tu poses la question du vote utile. Souvent, la réponse qui est apportée à ta question, c'est au premier tour, tu choisis selon ton cœur. Et au deuxième tour, tu choisis selon ta raison. Voilà. C'est une réponse imparfaite. Parce que ce faisant, en votant par exemple pour un candidat qui n'a aucune chance de passer au deuxième tour, tu enlèves ta voix à un candidat qui pourrait être en capacité de passer au deuxième tour. Et ta voix va l'empêcher, pour simplifier, va l'empêcher d'y arriver. Alors que c'était ton deuxième choix, quoi. Donc je n'ai pas de bonne réponse à ta question, qui est une très bonne question. Souvent, pour faire simple, on dit tu choisis au premier tour, selon ton cœur, le parti ou le candidat le plus proche de tes idées. Et puis au deuxième tour, tu votes pour le moins pire, quoi. Voilà. Enfin, je n'ai pas de meilleure réponse à t'apporter. C'est vraiment un choix à faire en ton âme et conscience, quoi. Je ne veux pas te donner de conseils là-dessus. Tu n'as pas une réponse militante ? Non, car je ne suis pas un militant. Donc, je disais, oui, du côté des macronistes, on ne se retrouve pas dans les idées de Retailleau, par exemple. La ligne conservatrice de Retailleau rebute de nombreux élus du Modem, l'aile gauche de Renaissance, dont certains aspirent à une candidature de leur camp capable de rassembler de la gauche raisonnable à la droite modérée. S'allier à LR autour d'un projet présidentiel serait donc à leurs yeux un reniement, tant ils accusent certains à droite d'embrasser les idées de l'extrême droite. À date, je ne me reconnais aucunement dans les propositions de Retailleau. Je suis pro-européenne, progressiste, radicalement modérée, insiste par exemple la présidente de l'Assemblée, Yaël Braun-Pivet. C'est marrant parce qu'à une époque, on parlait des ambitions présidentielles de Madame Yaël Braun-Pivet et on n'en parle plus trop. Mais peut-être que ça reviendra, quoi. Édouard Philippe, qui a rompu avec Emmanuel Macron et assume une offre politique de centre-droit, ménage lui Bruno Retailleau, les entourages des deux hommes soulignent leur bonne entente au point d'espérer une alliance au cours de la campagne si l'un des deux candidats faiblissait dans les sondages. Ok. Le 3 février, Gérald Darmanin les a conviés à dîner Place Vendôme, je suppose au ministère de la Justice, mettant en scène le rapprochement. Je ne pense pas pareil que Retailleau, mais pour autant je peux travailler avec lui, a déclaré d'ailleurs Darmanin sur RTL. Merci Kergine, ouais je sais. Mais des désaccords majeurs persistent quand même entre Retailleau et Édouard Philippe. Le chef de file des Républicains continue de dénoncer des dérives de l'état de droit. Il dit que l'immigration n'est pas une chance, une vision de la société à laquelle ne souscrit pas le leader d'Horizon, et qui apparaît comme un clivage indépassable pour les soutiens du chef de l'État. Après les propos de Retailleau sur l'état de droit, Emmanuel Macron est même sorti de sa réserve pour commenter le discours d'un candidat à sa succession. Il ne faut pas mettre en l'air notre constitution ou donner le sentiment aux Français que leur problème viendrait de là. Bon. On est sur la cuisine politique, mais dont les conséquences peuvent être importantes. Donc je vous partageais ce papier sur l'impossible candidat unique entre LR et les macronistes dans le monde. Je vous lis un petit peu parce que je ne vous lis pas beaucoup là. Nous avons une candidature à la présidentielle dans le chat de Rela TVT. Il faut un candidat unique du moment que c'est moi. Ok. Ah non, je comprends ce que tu veux dire. Ah, tu parles des ténors du centre et de la droite qui sont tous d'accord pour un candidat unique. Je viens de comprendre. Putain, je suis la vieillesse. Mais à condition que ce soit eux. J'ai compris. Je croyais que tu te présentais en vrai. J'ai vraiment cru que tu nous annonçais quelque chose. Et dans ce cas-là, on t'aura posé la question de ton programme, bien sûr. Et ça se trouve, on aurait voté pour toi. Alors, question suivante. On part à gauche maintenant. Est-ce que LFI doit désormais être considéré et présenté comme un parti d'extrême gauche? Le suspense est fou. Je vais chercher un petit Coca-Zéro pour me relancer. Et on va parler de cette question. Bougez pas. À une époque, je pouvais dormir 3 heures tous les jours pendant des semaines. J'étais frais comme un gardon. Et ben, c'est plus le cas. Ah, vous m'avez entendu bailler un petit peu? Comment ça, il y a un ours dans le studio? Un sondage s'impose. Ouais, zouf, on fera un petit sondage sur cette question. Ouais. Après l'article, t'as raison. Est-ce que, selon vous, LFI est un parti d'extrême gauche? Ouais, c'est une très bonne idée. Rappelez-moi de... Vous posez la question. Très bonne idée. Tout à fait. Ah, Mathieu, pas bête. Mathieu propose de faire une petite capsule pour YouTube sur ce sujet. Écoute, Mathieu, c'est une très bonne idée. Ok, donc on va le proposer à nos amis de YouTube. Excellente question. Excellente remarque. Merci Mathieu. Tu régales. Let's go. 3, 4. Amis de YouTube, bonjour. Vous êtes dans la matinée Étienne. C'est la revue de presse sur Twitch. Tous les matins sur ma chaîne Twitch, on passe en revue toute l'actu, hein, en lisant les journaux. Et ce matin, on s'est dit, tiens, voilà une actu qui peut aussi intéresser nos amis de YouTube. Donc, on vous la met en avant. Et amis de YouTube, n'hésitez pas à dire bonjour à nos amis de Twitch. Et amis de Twitch, n'hésitez pas à dire bonjour à nos amis de YouTube parce que je sais que vous saluez par chat interposé. Et c'est assez mignon en vrai. La question que je voulais mettre en avant là, c'est celle-ci. Est-ce que désormais on doit considérer et appeler, désigner la France Insoumise, LFI, comme un parti d'extrême gauche? Voilà. L'une des définitions qu'on peut prendre, c'est celle que donne le ministère de l'Intérieur en prévision d'élections de partis. Par exemple, le ministère de l'Intérieur en France dit que le RN, que le Rassemblement National, est un parti d'extrême droite. C'est le ministère de l'Intérieur qui le dit. Et le Conseil d'État a validé cette lecture malgré le fait que le RN... Je suis désolé, j'ai un chat dans la gorge. Que le RN conteste cette appellation. Voilà. La question se pose maintenant pour LFI. Jusqu'ici, le ministère de l'Intérieur en France désignait LFI comme un parti de gauche. Et il y a quelques jours, le ministère de l'Intérieur, dans la perspective des prochaines élections, notamment municipales, a dit, selon nous, eh bien, désormais, il faut parler de LFI comme un parti d'extrême gauche. Je vous lis l'article de Libération ce matin qui parle de ce sujet. L'argument ne vaut rien. Comment LFI conteste sa classification à gauche? Parce que du coup, LFI, si je ne dis pas de bêtises, conteste devant le Conseil d'État cette décision du ministère de l'Intérieur de parler de LFI comme de l'extrême gauche. Le mouvement a été auditionné mercredi par le Conseil d'État, devant lequel LFI a déposé un recours pour être reclassé à gauche, à rebours de la décision du ministère de l'Intérieur. C'était l'affluence des grands jours, place du Palais Royal, donc c'est là où il y a le Conseil d'État, alors c'est tout près du Louvre, à Paris, où les salariés du Conseil d'État en convenaient facilement. La juridiction se penchait sur l'attribution de l'étiquette extrême-gauche aux candidats de la France Insoumise lors des élections municipales. Hein, cette étiquette, en fait, de classement, quelqu'un me dit, mais à quoi, Capitaine Ourson me pose une bonne question, concrètement ça change quelque chose? Bah, en fait c'est un classement, hein, c'est un classement par le ministère de l'Intérieur, des partis, mais et du coup, un classement n'est pas innocent. Et après, ben, vous voyez, quand vous voyez les efforts du FN hier et du RN pour se débarrasser de cette étiquette extrême droite depuis toujours, Marine Le Pen, ça fait des années, sinon des décennies, qu'elle demande que son parti ne soit plus considéré comme un parti d'extrême droite, parce qu'en fait, cette étiquette, elle la trouve infamante, parce que le côté extrême est une étiquette qui peut faire peur à une partie des électeurs. Donc c'est une, quelqu'un me disait, ça n'a aucune valeur juridique. Oui, mais ça joue sur l'image du parti. Voilà. Et à ce jour, le RN n'a jamais obtenu du ministère de l'Intérieur qu'il classe ce parti à droite. C'est toujours pour le ministère de l'Intérieur et pour le Conseil d'État un parti d'extrême droite, voilà, sujet qu'on a déjà abordé ici. Maintenant la question se pose pour LFI. Oui, les mots sont puissants, exactement. Donc la juridiction, le Conseil d'État, se penchait mercredi, donc hier, hein, l'info est super fraîche, sur l'attribution de l'étiquette extrême-gauche au candidat LFI lors des élections municipales, une décision prise par le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, le 2 février. Qui a pris cette décision? Voilà, c'est important de le savoir. Inscrite dans une circulaire à destination des préfets et contestée par le mouvement de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce qu'il y a des critères? On va en parler des critères, la patte, parce qu'on va essayer de comprendre pourquoi le ministère de l'Intérieur a pris cette décision. Hein. On a justement, dans cet article de Libération, l'argumentaire du ministère de l'Intérieur pour prendre cette décision et l'argumentaire de LFI qui conteste cette décision. Vous allez voir, c'est assez bien foutu. Les Insoumis, eux, en appellent à la plus haute juridiction administrative, donc le Conseil d'État, pour se voir réattribuer la nuance gauche qui était la leur depuis la création de LFI en 2016. Donc depuis 2016, LFI est considéré par le ministère de l'Intérieur comme un parti de gauche, et désormais, c'est d'extrême gauche. D'ailleurs, le Conseil d'État avait confirmé cette classification de parti de gauche en 2024. À l'époque, les juges qui avaient été saisis par le RN, je vous en parlais, sur sa propre étiquette, n'avaient pas remis en cause le positionnement de ce parti à l'extrême droite. Au passage, comme le RN leur demandait de se prononcer aussi sur LFI, ils avaient confirmé, les membres du Conseil d'État, l'étiquetage de LFI à gauche. Depuis, les Insoumis citent régulièrement d'ailleurs cette décision pour se défendre de tout extrémisme. On n'est pas d'extrême gauche. La preuve, le Conseil d'État le dit. Problème, la juridiction s'était justifiée en expliquant que l'attribution d'une nuance politique retenue par les autorités, le ministère de l'Intérieur, est différente de l'étiquette politique librement choisie par le parti. Et que du coup, ça n'affecte pas la sincérité du scrutin. Pas de raison donc pour le Conseil d'État de revenir sur les choix du ministère. Les situations risquent fort de se répéter, et les mélenchonistes pourraient ainsi connaître le même sort que le RN. Quelle est la réflexion du Conseil d'État? Le Conseil d'État estime que l'attribution d'une nuance politique décidée par les autorités, donc le ministère de l'Intérieur, est différente de l'étiquette politique librement choisie par le parti. Ça, c'est vrai. Et là où, par contre, il peut y avoir débat, et moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'analyse du Conseil d'État, le Conseil d'État dit que la nuance politique retenue par les autorités n'est pas de nature à affecter la sincérité du scrutin. Moi, comme je le comprends, mais peut-être que je me trompe, le Conseil d'État dit l'étiquette politique, pardon, la nuance politique donnée par le ministère de l'Intérieur à un parti n'est pas de nature à influer sur le résultat des élections. Je ne suis pas d'accord. Je pense qu'il y a une partie des électeurs qui ne votent pas pour le RN parce qu'il est encore considéré comme un parti d'extrême droite. Et si demain, peut-être à la marge, hein, mais si demain on désigne effectivement LFI comme un parti d'extrême gauche, il y a peut-être des électeurs, peut-être à la marge, mais parfois c'est la marge qui fait l'élection, qui ne vont pas voter pour LFI parce que, je sais pas, il y a des proches qui vont dire au repas du dimanche « Mais tu vas quand même pas voter pour un parti extrémiste !» Vous voyez ? Donc, si c'est ce que dit le Conseil d'État, je suis pas tout à fait d'accord, quoi. D'ailleurs, si cette nuance politique, cette classification politique n'avait aucune importance et aucune conséquence, pourquoi le RN se battrait depuis toujours pour qu'on lui enlève cette nuance politique ? Hein, on est d'accord ? Je continue l'article, je prends un peu le temps parce que c'est des sujets importants. Mais ces derniers ne se résignent pas. Alors qu'en 2020 et 2023, LFI était classé à gauche, le ministre décide à la Trump de nous classer extrême gauche. Avait écrit Jean-Luc Mélenchon sur X dans la foulée de la publication de la circulaire. Le ministre de l'Intérieur lui avait assumé totalement ce choix. Donc là, on va comprendre les raisons mises en avant par le ministère de l'Intérieur pour qualifier désormais LFI d'extrême gauche, expliquant qu'à chaque élection, on adapte le nuançage et on tient compte de l'évolution de la vie politique. Et selon le locataire de la place Beauvau, donc ministère de l'Intérieur, LFI a évolué. C'est l'explication, c'est pas l'explication de Samuel Etienne, hein. Vous l'avez bien compris, c'est l'explication du ministère de l'Intérieur. A évolué, en cause le refus de la discussion parlementaire, les appels systématiques à la censure, la remise en cause très forte de l'autorité judiciaire, les accusations systématiques de la police et les appels à désobéissance civile. Ça, ce sont les arguments mis en avant par le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez. Des arguments repris par le ministère dans sa défense, auxquels s'ajoute un faisceau d'indices qui démontrait le durchcissement de LFI depuis les législatives de 2024, donc ils auraient changé. Parmi eux, le fait que les insoumis se distancient de plus en plus des autres partis de gauche. Merci encore à Random Turégal. Mais selon Maître Frédéric Thiriez, qui est chargé de défendre LFI, l'avocat d'LFI, donc je cite l'avocat, deux points ouvrez les guillemets, le Conseil d'État exige, c'est en tout cas mon interprétation, que ces indices soient objectifs et pas subjectifs. Et l'avocat d'LFI dit, mais attendez, vos arguments, ils sont subjectifs, ils ne sont pas objectifs. Ce que vous dites là, ça n'est pas mesurable. Ce qui n'est pas le cas de ceux avancés par le ministère, selon LFI, que l'avocat a démonté un par un. La parole à la défense maintenant. On a entendu l'accusation, on l'a entendu du ministère de l'Intérieur. La parole à la défense de LFI. Voilà. Et l'avocat de LFI a démonté ses arguments. Le fait d'être assimilé à un camp, d'abord, où fraye des organisations ostracisées pour leur extrémisme, voire leur violence. Voilà. L'avocat de LFI dit, mais attendez, là, vous nous mettez dans le camp de NPA, de lutte ouvrière, de LCR, la lutte communiste révolutionnaire, en fait, deux partis qui remettaient en cause le système, voilà, qui parfois prenaient la révolution prolétarienne. Hein, et l'avocat dit, mais LFI n'a jamais prôné la révolution à la Lénine et appelle à une révolution citoyenne par les urnes, donc en respectant les institutions. Voilà. Ce qui, selon l'avocat, différencie des autres partis d'extrême gauche. Voilà. Sauf que, sauf erreur de ma part, le NPA s'est présenté à des élections, et puis la LCR aussi, et Lutte ouvrière aussi, donc. Que penser de cet argument ? Pour le reste, l'attitude vindicative relevée chez Jean-Luc Mélenchon n'est pas nouvelle. Oui, parce que c'est intéressant ça. Alors, attitude vindicative, le tribun Mélenchon, qui ferait que ça classerait, ça aiderait à classer LFI à l'extrême gauche. Bah, l'avocat dit, mais ça n'est pas nouveau. Or, le ministère de l'Intérieur vient d'expliquer que il avait pris cette décision de changer la désignation de LFI parce que le parti avait évolué. Il dit, le côté vindicatif de Mélenchon, dit l'avocat, bah, c'est pas nouveau, ça a toujours été. Pour le coup, ça a toujours été. sur les remises en cause de l'autorité judiciaire, liées notamment à la critique de l'inéligibilité de Marine Le Pen, parce que, vous le savez peut-être, mais sauf erreur de ma part, Jean-Luc Mélenchon a critiqué la décision de la justice française frappant Marine Le Pen d'inéligibilité, en estimant, Jean-Luc Mélenchon, en estimant que ce n'est pas la justice d'empêcher, d'autoriser ou d'empêcher quelqu'un de se présenter à une élection, hein, en gros. Hein. Et là, l'avocat répond, il est autorisé en démocratie de critiquer une décision de justice à condition de ne pas jeter le discrédit sur la justice dans son ensemble. Voilà. Et en rappelant d'ailleurs que François Bayrou, Premier ministre à l'époque, lui aussi s'était étonné de cette décision de la justice française qui avait frappé d'inéligibilité Marine Le Pen. Voilà. Et François Bayrou n'est pas d'extrême gauche. Après d'autres arguments balayés par l'avocat Maître Thiriez, le dernier indice du ministre est celui de la désalliance du bloc de gauche. Vous savez, le fait que LFI ait pris ses distances par rapport aux autres partis de gauche. Et du coup, ça le placerait à l'extrême gauche. Voilà. Et l'avocat reconnaît que c'est l'argument le plus sérieux. Le ministère appuie en effet sa décision sur le fait que LFI présente en particulier dans les grandes villes des listes séparées du reste de la gauche pour les municipales. Mais l'argument ne vaut rien, selon l'avocat. D'une part, il y aura très vraisemblablement pour le second tour des alliances entre LFI et la gauche traditionnelle, sans doute. D'autre part, lors des précédentes municipales de 2020, c'était exactement la même situation qu'aujourd'hui. LFI avait présenté au premier tour des listes séparées de celles de la gauche traditionnelle. Donc l'avocat dit, il n'y a pas de changement. Ça, c'est intéressant. Après, je vais vous lire, bien sûr, puis on fera un sondage, d'accord ? Je vous demanderai votre avis là-dessus. Et l'homme en robe noire, donc l'avocat de conclure, que LFI et sans doute son principal dirigeant, Jean-Luc Mélenchon, dérange, j'en conviens. Changer subitement sa nuance politique pour le placer comme extrémiste devrait déranger tout autant. À moins qu'il ne s'agisse d'une petite manœuvre de ce que l'historien Pierre Cernat a appelé l'extrême-centre pour diaboliser les deux extrêmes, montrant ainsi où est le bien et où est le mal. Justement, de l'autre côté de l'échiquier politique, l'Union des droites pour la République, donc qui est le parti d'Éric Ciotti, qui est aussi le parti de Charles-Henri Aloncle, l'UDR conteste elle aussi, mercredi, son positionnement à l'extrême droite. Mais les alliés du RN sont, semble-t-il, davantage résignés que les insoumis, puisque aucun avocat n'a pris la parole pour défendre le cas du parti d'Éric Ciotti. Allez, je vous lis. Libération qui rappelle que sur le ministère de l'Intérieur, d'ailleurs, au passage, l'UDR est un parti d'extrême droite, allié au RN. Ce qui explique peut-être que dans la commission de l'Assemblée nationale sur l'audiovisuel public, il y a beaucoup de questions qui portent sur le RN. Je dis ça. Je dis rien. Allez, je vous lis. C'est la stratégie du centre depuis Jospin, dit Carbibou.
Mais non ! Mais hasard de dingue !
Pardon. Ah, j'aurais dû le lancer plus tôt celui-là. Il est parti deux secondes trop tard. Dans les programmes, LFI ressemble beaucoup à un programme socialiste d'il y a 20 ans, dit Trickster, t'as trop peur. Et le RN, dans les grandes lignes, a un programme du RPR il y a 30 ans. Trickster, là, je ne veux pas être d'accord avec toi, c'est qu'en fait, la question de l'immigration est centrale pour le RN. A toujours été centrale pour le FN et est toujours centrale pour le RN. Et la question de l'immigration, le vieux que je suis ne peut pas te laisser dire que la question de l'immigration était centrale. C'est l'alpha et l'oméga quand même du corpus idéologique du RN. Elle était centrale dans le RPR il y a 30 ans. Pour le coup, c'est une contre-vérité. Est-ce qu'il y a un autre point de vue que celui de l'avocat ou c'est une tribune de l'avocat ? Alors sois-y, c'est à moins que tu sois arrivé il y a 2 minutes au milieu de l'article, nous avons dans cet article évoqué tous les arguments du ministère de l'Intérieur. Donc il y a eu la parole à l'accusation et la défense. Alors ou tu n'étais pas là, ou tu n'as pas entendu, ou il faut écouter. « Et en quoi la question de l'immigration soit centrale au sein du programme du RN justifie qu'il soit considéré comme extrême? C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que quelqu'un me disait que le RN et le RPR il y a 30 ans, c'est la même chose. Je dis non. Le RPR il y a 30 ans n'avait jamais mis l'immigration au centre de son programme. C'est en faisant des petits raccourcis comme ça qu'on finit par bosser à l'Assemblée. J'ai jamais dit ça. Qui dit que le RN est d'extrême droite? C'est le ministère de l'Intérieur et c'est le Conseil d'État. Faut pas faire de raccourcis comme ça, parce que sinon on voit tout droit dans le mur, les gars. Voilà, Vivix dit, moi je pense que les filles doivent et restera être d'extrême gauche. Je vous lis encore un petit peu, puis on va faire un sondage. La mise en place d'un équivalent entre LFI et RN, extrême gauche, extrême droite, écrit Zorx, ça permet de donner de l'importance au nini qu'incarne notamment la Macronie, se pose alors la question de l'intérêt politique derrière ce classement et de son honnêteté politique. Une question intéressante. Écoute, Maël Famoso, je suis assez d'accord avec toi. Maël nous dit quoi? Est-ce qu'ils ne peuvent pas plutôt se baser sur les programmes pour catégoriser les partis sur l'échiquier politique? Car là, c'est vrai que dans l'article qu'on vient de lire, ça ne parle pas beaucoup des programmes. Écoute, moi, je suis assez d'accord avec Maël. Hein. Oui, il y a un débrief qui est en replay sur la chaîne Twitch, Maxime, et qui est en replay sur la chaîne YouTube à partir de 13h aujourd'hui. Littéralement dans moins d'une heure. D'ici la fin de ce stream, le replay d'hier soir sur le React à l'audition. Attends, Sugar... c'est déjà Sugar? Non, normalement c'est 13h. Mathieu m'a dit 13h. On fait un sondage? On fait un sondage? Ok, je vais vous demander si selon vous, LFI doit être considéré comme un parti d'extrême gauche. C'est une question... La question est très simple, la réponse est difficile. C'est bien à 13h? Merci mon Mathieu. Par exemple, il y a Marlise Brando qui dit « Pour le coup, avant, je considérais LFI comme d'extrême gauche, mais du fait du déplacement du PS vers le centre droit, je considère maintenant que c'est LFI qui porte ses valeurs de gauche. » Eddie Wings, LFI n'est pas d'extrême gauche, c'est pas compliqué. On prend les critères objectifs pour définir l'extrême gauche, il y en a 5 globalement. Tu vois en comparant avec ces 5 critères objectifs qu'LFI n'est pas d'extrême gauche puisqu'ils correspondent à 1 ou 2 critères sur 5. Alors, et là on passe à autre chose, les partis d'extrême gauche c'est Lutte Ouvrière, LO, NPA, Nouveau Parti Anticapitaliste, RP. RP. Merde, c'est quoi RP? C'est quoi RP? Merde, je l'ai plus. Tu me dis? Et ils détestent LFI parce que ce sont des sociodémocrates, point. Révolution permanente? Hop, 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 j'ai pas la rêve, bordel. Je suis désolé. C'est quoi révolution permanente? C'est quoi révolution permanente? Je suis désolé. Il faut savoir reconnaître quand on ne sait pas et je ne sais pas. Scission de NPA? C'est des anciens du NPA? Ben, excusez-moi, je ne le savais pas. Ok, merci beaucoup, merci pour l'info. C'est le NPA le plus révolutionnaire. Ok, sondage. Alors, nouveau sondage. Selon vous, LFI est un parti de points de gauche. J'écris n'importe quoi. D'extrême gauche. Où le petit tiret? Ah, j'ai l'underscore, moi. Voilà. Et je ne sais pas, parce qu'on n'est pas obligé d'avoir un avis aussi. Ok, bougez pas les beaux gosses. Oui, vous votez par mail, bien sûr. sur YouTube. Ok, je lance le sondage. Selon vous, LFI est un parti de gauche ou d'extrême gauche? Bon, les petits trollers, t'as pas dit extrême droite ou de droite ou du centre, voilà, faites plaisir. Alors, j'entends les, mais pourquoi tu proposes pas d'ultra gauche ou par exemple, c'est juste parce qu'en fait le débat là qui est posé par le ministère de l'Intérieur et par l'avocat d'LFI, c'est le ministère de l'Intérieur qui dit LFI c'est l'extrême gauche et LFI qui dit non c'est un parti de gauche. Voilà. Vous voulez que je rajoute gauche? J'ai pas le sondage, c'est normal, je l'ai pas lancé. Vous voulez que je rajoute gauche radicale? Vous voulez que je rajoute gauche radicale? C'est pas le débat, hein. Le problème, c'est. Alors, je comprends, hein, c'est pertinent. Mais ça nous éloigne de la question qui est posée ici par le ministère de l'Intérieur et LFI. Je trouve pas ça inintéressant. Mais je trouve que ça nous éloigne de la question qui est posée aujourd'hui. Mais je comprends la question. Allez, c'est parti, 2 minutes. Selon vous, LFI est-il un parti de gauche ou d'extrême gauche? Si vous pensez que c'est un parti de gauche radicale, vous mettez de gauche. Vous mettez de gauche. Hein. Vous avez 2 minutes pour voter. Là, le sondage est lancé, c'est en haut du chat.
Ok.
Et vous pouvez envoyer vos mails tout de suite dans le chat. Sur YouTube. À voter. C'est bien, c'est bien, c'est bien, ça vote. On a un giveaway pour le gagnant. Tu as tout mon respect, Nono Escargot. Tu as mon respect de giveaway. Le sondage est en train de se dérouler. Déjà, 1000 votants. 1000 votants.
Combien ?
1000. Même pas un petit bisou? Non. Vous aurez mon respect. Vous aurez ma considération. N'oubliez pas d'aller voter en mars cette année en 2027. Oui, ça a complètement raison. N'oubliez pas, c'est important d'exercer votre droit de vote chèrement acquis par nos aînés. Voilà. Le spectacle de la politique n'est pas toujours enthousiasmant. Après, franchement, comme je vous le dis souvent, même si ce spectacle de la politique n'est pas toujours enthousiasmant. Moi, je ne vais jamais voter en sautillant de joie les jours d'élection. Je me pose parfois de vraies questions et j'hésite aussi parfois. Mais par contre, quelque chose que je déteste, c'est que les autres électeurs choisissent à ma place. 1500 personnes à avoir voté, il reste 20 secondes, 10 secondes. Vous êtes 1500 à avoir voté. À voter! Merci Giroxys pour le Prime. Merci Suzarène pour le Prime. Merci Petit Chat pour je t'avais pas vu pour le deuxième mois. Merci Wombat of War. Merci Kay. Merci beaucoup. C'est qui Sticule? C'est quel parti ça? Il y a quelqu'un dans le chat qui dit n'oublie pas de voter Sticule. C'est qui Sticule? C'est quel... J'ai pas la ref. C'est quel parti? C'est un candidat ou c'est un parti? Sticule? Je sais pas. Voter Sticule? Je ne vois pas de qui vous parlez. C'est gauche ou c'est extrême gauche? C'est un peu les deux? C'est un peu les deux en même temps? Je comprends pas trop. Droite et gauche? Mais c'est pas possible. Comment ça c'est... Donc, ça peut pas être droite et gauche? Sticule. Voter Sticule, c'est gauche et droite. Je sais pas, je suis pas sûr de votre analyse. Alors, je vais essayer de creuser ça sur Google Images. Je vais regarder, je vais taper ça. Sticule. Alors, votre vote sur LFI est-il un parti d'extrême gauche? Vous êtes 60%, 915 viewers à estimer que LFI est un parti plutôt de gauche. Vous êtes 31%, 471 viewers, à estimer que LFI est aujourd'hui un parti d'extrême gauche, rejoignant l'analyse du ministère de l'Intérieur. On attend la décision maintenant du Conseil d'État, ça va être très intéressant. Libé préchote en nous disant que le Conseil d'État va sans doute valider l'analyse du ministère de l'Intérieur. On va voir si Libé se trompe. Et je ne sais pas, parce que c'est un sujet qui est complexe, vous êtes 9%. Voilà. Et quand je fais un sondage, on ne juge pas le résultat du camp d'en face. Hein. Oui, c'est des tarés, ils ont rien compris, ils sont impressionnables. Hein. Voilà. Un peu de respect. Je vous lis un petit peu et on enchaîne avec le sujet d'après. Ok. Je ne fais pas de mini-sieste, hein, je suis en train de vous lire. C'est mon plaisir. Ok. Bon, en tout cas, merci pour ce vote. On va passer au sujet suivant. Je regarde si je n'ai pas des messages urgents, notamment concernant ce projet de fou, mon plus gros projet en plus de 5 ans. Je vous annonce dans quelques jours. Le suspense est à son comble. Voilà, donc là, non, j'ai le petit message de taf. Mais rien d'urgent. Ça tisse, parce que c'est vrai, parce que je ne vous troll pas, parce que je vais vous annoncer dans quelques jours, je l'espère, mon plus gros projet depuis 5-6 ans. C'est une dinguerie. Tout ce qu'on a vécu ces derniers jours, ces derniers mois, de la gnognotte. De la gnognotte. Tu retournes en Bretagne? Non. C'est pas le festival MVP. Non, c'est plus fort. C'est plus fort. Ouais. C'est plus fort. Est-ce que tu retournes à la télévision? Non. L'organisation d'un 10 km? Non. La présidentielle 2027? Je ne réponds pas à cette question. Tu quoi, tu ouvres quoi? Tu ouvres ta propre chaîne télé? Non. Un event IRL? Je réponds pas à cette question. Tu lances une marque de dessous? Non. La présidence du Louvre? Non, elle vient d'être prise par quelqu'un de nouveau. Tu ouvres ton fast-food? Je ne réponds pas à cette question. Allez, go. Une soirée BDSM dans ta cave? Waouh! Waouh! Ok, sujet suivant. Trump. Alors c'est la même une du Monde. Hein. Je ne radote pas, mais la une du Monde est partagée entre la politique en France et le discours sur l'état de l'Union de Donald Trump. Le discours sur l'état de l'Union, un discours traditionnel des présidents américains, qui est en une du Monde ici. Non, rien. On dirait qu'il chante. Non, je ne regrette rien. Ni non. Hein, c'est mignon. Et derrière, ils sont. Chauffe de là, vas-y. Envoie, t'es chaud. Allez, fous l'ambiance. C'est marrant, c'est rigolo. Elle est belle cette image. Face au Congrès, l'auto-célébration de Donald Trump. Dans son discours sur l'état de l'Union, l'Union, c'est l'Union des États américains, vous l'avez compris. Mardi, le président américain a vanté un prétendu âge d'or. Âge d'or. Le Golden Age des États-Unis. Bon, le problème, c'est que tous les Américains ne sont pas super d'accord, mais voilà, on va en parler dans un instant. La population, elle désapprouve pourtant largement sa politique économique au résultat mitigé. Trump estime le monde, prononce un discours de la division. Voilà. Face aux élus du Congrès, le président américain a célébré son action et férocement critiqué les démocrates. Let's go. Merci Furikane. Merci Ismax. Merci Giroxis. Merci Suzarène. Correspondance à Washington de Piotr Smolar, qui écrit de très bons articles. De tous les records que le président américain Donald Trump prétend battre, on peut lui en reconnaître un, celui du discours sur l'état de l'Union le plus long de l'histoire télévisée, soit 1h47. Je connais des streamers qui font des streams de 6 heures sur de la politique. Je connais des streamers qui font des streams de 24 heures sur un jeu qu'on appelle Valorant. Alors, pardon, mais alors un discours d'une heure 47. Je ris.
Je ris.
Donc, bref, 1h47, mais c'est quand même le plus long de l'histoire des États-Unis. Les mains des élus républicains étaient rouges d'ardeur mardi, à force de saluer le président, lancé dans un exercice classique pour lui, mélange d'auto-célébration et d'attaque féroce contre les démocrates. Le diviseur en chef a pris son temps, savourer ses effets et organiser l'affrontement à moins de 9 mois des élections de mi-mandat, élections de mi-term très importantes. Donald Trump a commencé par dresser un état des lieux flamboyant du pays depuis son retour à la Maison Blanche. Tout va bien, alors je vous spoil le discours, tout va bien. Les States n'ont jamais été aussi beaux, lumineux, shiny, puissants, riches, et c'est grâce à Trump. Voilà, on peut presque on n'a pas besoin de lire l'article. Donc, il a commencé par dresser un état des lieux flamboyants du pays depuis son retour à la Maison Blanche. Il a mis en avant la fermeture totale de la frontière avec le Mexique, la baisse de l'inflation, encore celle du prix de l'essence. Ce soir, après seulement un an, je peux dire avec dignité et fierté que nous avons réussi une transformation comme on n'en avait jamais vu. Jamais ! Jamais ! Et un revirement mémorable. Nous ne reviendrons jamais au point où nous étions il y a peu. Ah bah ça, c'est sûr. Pardon. La vision caricaturale exposée par le Républicain, non seulement mardi soir, mais tous les jours de la semaine devant chaque micro, est celle d'un pays mort sous Joe Biden. Voilà. Son prédécesseur est devenu hot, attrayant, caliente. Sous sa direction, les États-Unis sont devenus hot. C'est pas moi qui le dis, c'est Trump. Grrr. Donald Trump a mis en scène la confrontation impitoyable avec les démocrates. Il a, remarque, comme il a encore sorti son pays des accords sur le climat, et qu'il nie le réchauffement climatique, il dit que c'est une blague, que c'est un sketch. Et qu'il met le paquet sur full carbone. C'est vrai que les États-Unis sont en train de devenir de plus en plus hot. Mais attendez, Trump, il dit pas que des bêtises, en fait. Mais dites donc, le monde, arrêtez de critiquer Trump. C'est vrai ce qu'il dit. Le pays est de plus en plus hot. C'est vrai. Donald Trump a mis en scène donc la confrontation impitoyable avec les démocrates. Il a d'abord attaqué sur le coût de la vie, en mettant l'inflation sur le compte de l'ère Biden, 20% de hausse en 4 ans. Vous avez causé ce problème, a-t-il dit aux démocrates. Avant d'ajouter, il savait que leurs déclarations étaient des mensonges sales et pourris. Leurs politiques ont créé les prix élevés, nos politiques y mettent rapidement un terme. Alors, ça n'est pas, hélas, le sentiment d'une majorité de citoyens américains, comme le montrent toutes les élections partielles et les sondages, selon par exemple cette étude Washington Post, ABC News Ipsos publié dimanche, 60% des Américains désapprouvent l'action de Donald Trump. Parfois dans le chat, de moins en moins sur ce sujet, il y a des gens qui pop et qui disent ouais, ils ont tort. Donc parfois il y a un Français qui arrive dans le chat et dit ils ont tort les 60% d'Américains là, ils comprennent rien. Bon, pas aujourd'hui, mais on a eu. Mais ça se perd. Je sais pas où ils sont, les supporters de Trump. Je sais pas où ils sont partis. On en avait à une époque. Voilà. Mais ils sont partis sous d'autres latitudes. Ou ils ont changé d'avis. Ce n'est pas le sentiment d'une majorité d'Américains, donc 60% désapprouvent l'action de Donald Trump. Dans le détail, c'est encore pire en matière de lutte contre l'inflation, 65%. Sur les droits de douane, 64%. Les relations avec les pays étrangers, 62%. Tenez bon encore un peu, leur a dit Trump. Notre pays gagne à nouveau. En fait, on gagne tellement qu'on ne sait plus vraiment quoi faire de cela, a déclaré Trump. Trump, il dit, mais on gagne tellement, mais on ne sait pas quoi en faire. Mais trop de richesses, trop de succès, trop de... Mais que faire de tout ça? À l'approche du 250e anniversaire de la Déclaration d'indépendance, le président a célébré le patriotisme en faisant apparaître dans le public l'équipe masculine olympique de hockey, médaillée d'or en Italie, l'équipe féminine, sacrée championne olympique, ayant pour sa part décliné l'invitation. Ah. Ou encore un vétéran de la Seconde Guerre mondiale âgé de 100 ans. Mais ces moments consensuels ont été fracassés par sa vindicte partisane.
Le président s'en est pris aux démocrates au sujet du coût de la santé puis de l'immigration illégale qu'ils auraient favorisé. S'ils étaient à nouveau élus un jour, ils ouvriraient ses frontières à certains des pires criminels dans le monde, a déclaré Trump. Puis Trump a posé son piège prémédité. Il a demandé à l'assistance de se lever. Si elle estimait comme lui que le premier devoir d'un gouvernement américain était de protéger les citoyens américains et pas les étrangers illégaux, les démocrates sont restés assis. Vous devriez avoir honte. Shame on you, a déclaré Trump. Les réseaux MAGA ont repris cette image avec les démocrates assis à l'infini. C'est marrant. Pardon, ça c'est pas le mot d'ailleurs. C'est rigolo. Non, c'est pas le mot non plus d'ailleurs. Samuel, tais-toi. La salve suivante a concerné le texte de loi qui a discussion au Congrès actuellement, obligeant tout électeur à présenter une pièce d'identité pour voter, ce qui n'est pas le cas dans certains États. Ils veulent tricher, a lancé le président de façon répétée au sujet des démocrates, qualifiés de fous, voulant détruire le pays. Dans son dos, à chaque outrance, le vice-président J.D. Vance était hilar. C'est lui, hein, c'est ça? Non. Ou c'est lui? C'est lui? C'est lui, J.D. Vance, c'est lui qui veut être calife à la place du calife. C'est lui qui se voit bien, qui c'est ça, hein. C'est lui, hein. C'est lui, hein. Donc, et c'est vrai qu'il rigole. C'est vrai qu'il rigole. Comment ça, il est à gauche? Bah non, pas tellement. J.D. Vance, il est encore plus radical que Trump. Ah non, il est pas à gauche. Ah, de la photo. Ah oui, oui, ça oui, oui. Ah oui, parce que sinon, pas trop, non. Continue. Citant la situation au Minnesota, Donald Trump a affirmé que le montant des fraudes commises par la communauté somalienne s'élèverait à 19 milliards de dollars. Une guerre contre la fraude sera conduite par le vice-président. Vous pouvez commencer par l'administration la plus corrompue dans l'histoire américaine, le cartel Trump, a réagi sur X, le chef de file des démocrates à la Chambre. En revanche, le milliardaire n'a fait aucune mention des opérations du département de la sécurité intérieure à Minneapolis, ni de la mort de deux civils. C'est dommage, dans un discours au peuple américain sur l'état de l'Union, de ne pas évoquer, si je puis me permettre, la mémoire de ces deux civils tués par la police de l'immigration américaine. Un moment de bascule pourtant dans ce mandat. Le président a alors, je n'ai pas dit à l'instant que Vance était raciste. J.D. Vance. Par contre, je ne l'ai pas dit, mais Stepway, toi, tu as écrit, est-ce que c'est du troll? Vance est tellement raciste que sa femme est indienne. Je ne sais pas si c'est du troll. C'est le fameux argument, je ne suis pas raciste, j'ai un ami noir? Non, je pense que c'est du troll. Je pense que c'est une vanne. Ah non, c'est pas du troll, puisque Stepway nous a écrit un peu plus tôt, à 11h34, le 12 février 2025, Mélenchon est par exemple un génocidaire des Français de souche et des Blancs en général. Donc c'est pas du troll, ok. Je ne suis pas raciste, j'ai un ami noir. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, pour ton œuvre. Deux messages, mais... tu es là, tu es là-haut. Tu es là-haut. Merci. On continue. Pourquoi le message n'a pas été ban? Le message a été supprimé à l'époque, le premier message là sur les blancs là. Mais la personne n'a pas été bannie. Parce que je pense que de temps en temps, le content, le divertissement, c'est important. Et il faut aussi s'aérer la tête. Et moi, je pense qu'il y a des choses comme ça qui de temps en temps viennent nous distraire et je trouve ça intéressant. Il n'est pas raciste, sa femme est étrangère. Par ailleurs, quelqu'un me disait né en Californie. Bon, alors, si vous commencez à regarder les détails, hein. Continue. Donc, aucune référence aux deux civils tués à Minneapolis. Un moment de bascule, pourtant, se permet d'écrire le monde dans ce mandat. Le président a souligné qu'il y avait de larges parts du monde où les pots de vin, la corruption et l'illégalité étaient les normes et non l'exception. Importer ces cultures par une immigration sans restriction et des frontières ouvertes amène ces problèmes. Ici, aux États-Unis, ce sont les Américains qui paient le prix de factures médicales plus élevées, des assurances auto, les loyers plus importants, et peut-être le plus important encore du crime. Nous allons régler ce problème.
Donc, les problèmes des Américains, factures médicales plus élevées, des assurances auto plus élevées, des loyers plus élevés, des impôts plus élevés, du crime plus élevé, c'est la faute des étrangers. La partie consacrée à la politique étrangère n'a été abordée qu'au bout de 75 minutes. Pas un mot sur l'Europe. Pas un mot sur l'Europe. Une mention formelle de la guerre en Ukraine. Oh, pff, guerre en Ukraine. Rien sur la Chine. Un oubli étonnant. Concernant l'Iran, dont on a beaucoup parlé ces derniers jours, avec le soulèvement à nouveau des étudiants iraniens, s'il exprime une préférence pour une résolution diplomatique, Trump exclut de laisser le sponsor numéro un du terrorisme dans le monde obtenir l'arme nucléaire. C'est aujourd'hui ça. C'est aujourd'hui le 26, non? Ah, j'ai un team qui vient de se caler à 13h. Excusez-moi, je réponds. C'est du taf. Mais c'est trompé. Il m'a dit demain. Ok, pour demain. Pour demain. 12h30. Un Teams. Encore un projet. Encore un projet. Voilà. Ce sera dispo sur YouTube dans 30 minutes le replay, Grumpy. Je reviens à mon article. Donc, on voit que Trump parle pas tellement du peuple iranien, mais en revanche, dit il est impossible qu'on laisse le pouvoir iranien se doter de l'arme nucléaire. Le Monde rappelle que l'administration américaine a organisé depuis 2 mois la mise en place d'un dispositif militaire hors norme jamais vu depuis la guerre en Irak, autour de l'Iran, notamment avec 2 groupes aéronavals. Voilà. Le président entretient une confusion sur ses objectifs. Début janvier, il promettait de voler au secours des manifestants massacrés par le régime iranien. Il l'a dit. Il a incité les Iraniens à descendre dans la rue, promettant que les forces américaines arrivaient. Il l'a dit. Voilà. Il n'est pas intervenu. Mais les négociations ces dernières semaines ont porté surtout sur la question nucléaire. Un nouveau rendez-vous est prévu à Genève, en Suisse, jeudi 26 février. Ouais. Ouais, il l'a dit, ouais. Il a incité les Iraniens à descendre dans la rue en disant que les Américains arrivaient. La menace imminente d'une opération militaire contre l'Iran plane au-dessus du Capitole. Dans l'état après-midi, le secrétaire d'État Marco Rubio, le directeur de la CIA, avait organisé un briefing à huis clos avec les chefs de file des deux partis dans les deux chambres du Congrès. À la sortie, la mine grave des participants démocrates en disait long. Est-ce qu'une opération militaire se prépare contre l'Iran? C'est une vraie question. Donald Trump a semblé préparer l'opinion publique à une possible opération militaire d'ampleur, sans lever ses propres ambiguïtés. À suivre donc. Je ne vous lis qu'une partie de l'article. Hein. La conclusion de l'article du Monde, c'est « Mardi soir, Donald Trump s'exprimait devant la principale victime, c'est-à-dire le Congrès américain, de son interprétation abusive des prérogatives de l'exécutif, après avoir signé plus de 220 décrets présidentiels. » Vous savez qu'il vient de se faire retoquer par la Cour suprême sur notamment les taxes commerciales. La Cour suprême qui a dit bah « Ben non, mais c'est le Congrès qui doit prendre ses décisions, c'est pas toi. » On en a parlé cette semaine. Depuis un an, il a méprisé les législateurs, notamment sur les opérations militaires en Iran et au Venezuela, ou encore sur les frappes contre des bateaux de narcotrafiquants dans les Caraïbes, sans parler des droits de douane. En outre, son administration n'a toujours pas mis en œuvre la loi votée en décembre 2025 réclamant la publication intégrale des archives sur le criminel sexuel Jeffrey Epstein. Plus que jamais, Trump est enfermé dans une galerie des glaces dont chacune lui renvoie un reflet faussement flatteur. Toute perturbation de cette félicité est considérée comme un acte hostile et illégitime. Voilà pour l'article de Trump, je vous lis et on finira avec un article sur l'IA. Et après j'irai faire une sieste. Let's go!
Je vous lis. Excusez-moi, monsieur Étienne, qu'est-ce que vous pensez du RN dans les journaux? C'est-à-dire? J'ai pas le. Qu'est-ce que je pense du RN dans les journaux? Bon, écoute, je te renvoie. Alors, c'est un peu long, mais. Ça, salut, Brocoline. Je te renvoie à mon audition devant la commission de l'Assemblée sur l'audiovisuel public, où la question m'a été posée à plusieurs reprises par monsieur le rapporteur. Espèce de. Obsession sur la question du RN. Comme j'ai répondu plein de fois, je te laisse aller voir. Alors, mesdames et messieurs, dernier sujet, mais il est pas mal celui-là aussi. Est-ce qu'on a raison de s'inquiéter des conséquences potentiellement gigantesques de l'IA sur l'emploi? Alors, on en a déjà parlé, mais là, il y a des inquiétudes qui se concrétise, qui se formalise, qui se... C'est la une des échos quand même. Journal économique. IA et emploi, le scénario noir. Peut-être que ce scénario ne va pas se réaliser. Mais peut-être qu'il va se réaliser. L'IA va détruire en masse des postes de travail, selon un institut de recherche américain. La baisse des salaires des emplois qualifiés à cause de l'essor des agents IA va faire parallèlement reculer la consommation. Wall Street et certains investisseurs s'inquiètent, mais le débat sur cette possible catastrophe fait rage. Donc, hausse du chômage, baisse de la consommation, baisse de la croissance, baisse de l'activité. Voilà, évidemment, tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, mais je trouve très important d'en parler. L'analyse de la note catastrophe qui prédit un chômage massif à cause de l'IA, force MMG. Dans une note de recherche, l'institut américain Citrini Research a dressé un scénario cauchemardesque lié à l'impact de l'IA sur le chômage. Ce qui suit un scénario, pas une prédiction. Une note d'une vingtaine de pages, publiée dimanche par cet institut, a donné des sueurs froides à Wall Street et au-delà. Et si l'intelligence artificielle conduisait l'économie à sa perte? Ah, du coup, à Wall Street, aux échos, dans les milieux financiers, bon, les conséquences de l'IA sur la société... Mais les conséquences de l'IA sur l'économie, là on en parle. C'est la thèse relatée en tout cas dans ce scénario catastrophe intitulé « La crise mondiale de l'intelligence de 2028 ». Les auteurs y décrivent comment les progrès de l'IA pourraient devenir si massifs qu'il enverrait de plus en plus de travailleurs en col blanc au chômage en seulement 18 mois. Cet exercice de poétique fiction daté au 30 juin 2028 déploie le postulat suivant. Les outils d'IA, notamment les agents autonomes, deviennent si puissants qu'ils remplacent petit à petit les cols blancs dans toutes les entreprises. Les plans de licenciement massifs se succèdent, les entreprises voient les gains de productivité et les marges exploser. Hein. Mais parallèlement, le chômage et la baisse des salaires des emplois qualifiés entraînent un effondrement de la consommation. Oh, bah, il n'y a plus de salariés pour consommer. Ah, bah, on n'arrive pas à vendre nos trucs qu'on produit pourtant de plus en plus vite grâce aux machines et à l'IA. Ah oui, mais il n'y a plus personne pour les acheter. Ah zut, on n'avait pas pensé à ça. Car comme le point de ce scénario, il aurait dû être clair dès le départ qu'un seul cluster GPU dans le Dakota du Nord, générant le rendement précédemment attribué à 10 000 cols blancs du centre-ville de Manhattan, est davantage une pandémie économique qu'une panacée. L'économie de consommation centrée sur l'humain, qui représente alors 70% du PIB, s'est effondrée. Nous aurions probablement pu nous en rendre compte plus tôt si nous avions simplement demandé combien d'argent les machines dépensent dans des biens. Indice, 2 points, en bas de votre écran, 0. Nérim dit le capitalisme qui se mord la queue. Face à la chute de la demande, conjuguée aux faillites d'entreprises et à la fin des activités d'intermédiation, conseils financiers, services juridiques, immobiliers, le PIB se rétracte et seuls les fournisseurs de puissance de calcul et de modèles s'en sortent. Une boucle de rétroaction se met en place, un cercle vicieux sans frein naturel, la spirale du déplacement de l'IA, de l'intelligence humaine, laissant une économie exsangue, un État impuissant face à l'écroulement des rentes fiscales. Alors déjà que les États doivent lutter contre la puissance gigantesque des GAFAM, mais moins d'activité, moins de croissance, moins de revenus, moins d'impôts, moins de budget,
Voilà, et des GAFAM qui, eux, exploseraient, quoi. Mais c'est... Waouh ! Il y a un film qu'on pourrait faire là-dessus, non ? Hein ? Il y a eu des films comme ça dans le passé de science-fiction avec des sociétés privées qui étaient devenues les nouveaux États, avec une planète partagée, non pas entre Europe, Asie, États-Unis, non, mais entre sociétés privées. C'est un petit peu ce qu'on nous décrit, là. Cyberpunk 2077 nous parle de ça aussi. Depuis la sortie de cette étude, les experts débattent des arguments avancés. Les auteurs affirment que le succès des agents de coding siffle le début de la révolution agentique qui doit remplacer massivement les emplois qualifiés. Un sujet qui suscite déjà depuis quelques semaines une inquiétude croissante sur les marchés. Et oui, c'est intéressant que ce soit les marchés financiers qui commencent à s'inquiéter de ça. Selon eux, le secteur de la tech n'est que la partie émergée de l'iceberg. Alors qu'ils débattaient pour savoir si les multiples SaaS avaient atteint leur niveau plancher, les investisseurs ont oublié que la boucle réflexive avait déjà dépassé le secteur des logiciels. Je n'ai pas compris un traître mot de cette phrase, mais je vous fais confiance. Hein ? Pour les auteurs, la clé du raisonnement réside dans la structure de l'économie américaine fondée sur la consommation. Aux États-Unis, 20% de la population consomme 65% des biens dit discrétionnaire, c'est-à-dire non essentiel, loisirs, voyages, médias. L'appauvrissement de ces Américains-là entamerait un cycle de retournement de l'économie difficile à juger. Nérim qui dit « col bleu menacé, Balek, col blanc menacé, danger ». Comment vous donner tort ? Si le scénario noir a alarmé certains investisseurs, ses limites restent nombreuses. Le timing, d'abord, paraît insensé. Cela fait déjà 2 ans qu'on parle des agents autonomes, sans pour autant qu'un remplacement massif des emplois n'ait eu lieu. L'analyse de Citrini, donc, qui a produit cette étude, ignore aussi l'existence du paradoxe de Jevons. Je ne connais pas, on va comprendre. Plus connu sous l'expression d'effet rebond. C'est la première fois dans l'histoire que l'actif le plus productif de l'économie a produit moins d'emplois et non plus, affirment les auteurs. Mais l'effet rebond veut que l'efficacité technologique rende la ressource, ici l'IA, moins chère à utiliser, stimulant massivement la demande. C'est-à-dire, l'effet rebond veut que l'efficacité technologique rende l'IA moins chère à utiliser, stimulant massivement la demande. Ainsi, l'intégration de l'IA pourra en théorie conduire à la création de nouveaux marchés, et ainsi de nouveaux métiers. Vous l'avez, hein ? Un terrain de bataille économique, sociale, voire philosophique entre de nombreux chercheurs aujourd'hui. Comme j'ai un chat très intelligent, vous allez m'expliquer. Si ça coûte moins cher, il y a plus de gens qui le consomment. Plus d'IA égale IA moins cher, plus d'utilisation. Je ne l'ai pas. Ah, en gros, grâce à l'IA, on va produire moins cher. Et comme... Donc si les gens sont au chômage et qu'ils gagnent moins, c'est pas grave parce que les produits seront moins chers. Sauf si les entreprises augmentent leurs marges pour s'en mettre plein les fouilles. Mais personne ne va faire ça. Ouais, c'est chaud. Hein. Non. C'est utopique de penser ça. Bah oui. Bien d'accord. Attends. Non. Cette photo. Et rien que pour cette photo, mon audition de 3h30 mardi valait le coup. Merci les BG. Eh ouais, une petite revue de presse. Oh, courte, hein, 2h51, un mini-stream. Hein, c'est un flash ou nez, hein, qu'on a fait là. J'aime être avec vous, vous savez, hein. Je vis ma meilleure vie, mais je vais retrouver mon amoureuse à la maison, voilà, qui travaille pas aujourd'hui. Les enfants sont pas là, ils sont partis chez leur grand-mère, ils kiffent leur vie chez leur grand-mère, ils sont trop heureux là-bas, en Franche-Comté. Donc je vais retrouver mon amoureuse. C'est l'heure du déjeuner en plus, je vais peut-être manger avec mon amoureuse. Et après je vais faire une sieste parce que je suis déchiré. Voilà. Donc des bisous. Un grand merci. On va faire un raid. Je vous retrouve ce soir. Alors, attends, ce soir, le suspense est insupportable. Qu'est-ce qu'on fait ce soir ? Est-ce qu'on reste sur l'info ? Est-ce qu'on va faire, par exemple, le react de Xavier Niel devant la commission ? Est-ce qu'on fait du gaming ? Est-ce qu'on fait du Valo ? Est-ce qu'on fait du Beyond Two Souls ? Est-ce qu'on fait du... Bref, qu'est-ce qu'on fait ce soir ? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'on va streamer. Ok ? Donc, merci beaucoup. Je vous retrouve vers 19h30, 20h, on va dire. Merci, Yoyote. Merci pour la force que vous donnez en général aux streamers et aux streameuses, et en particulier là, à moi en ce moment. Ça fait du bien. Et comme je vous l'ai expliqué hier, j'ai traversé ces dernières années une séquence qui était compliquée, dont j'avais jamais parlé. Et une grande partie de la force que j'ai réussi à trouver pour que ça se passe à peu près bien dans ma tête, je l'ai trouvé ici. Non. Donc merci pour ça. Merci Twitch. Et merci à vous. Allez, on fait un raid. Alors, qui est en live ? On va faire un raid. Alors. Ouais. Ouais. Oh, il y en a des amis. Oh, c'est quoi ça? Ah, c'est bien ça. Pas mal ça, c'est un peu chill. Je regarde tous les amis qui sont en live. Hein. Ah, mais attends, ça aussi, ça fait longtemps. J'essaie de varier un petit peu les raids. Hein. Ah, ça fait longtemps que je... Oh, ils sont mignons en plus les deux là. Ah, je crois que j'ai trouvé. Les amis, il y a Lucky et Claire qui sont en live. Voilà. Lucky et Claire, c'est un couple. Ils streament et parfois c'est l'un qui est sur la chaîne et parfois c'est l'autre. C'est une chaîne partagée. Et là, ils sont tous les deux ensemble. Hein. C'est trop mignon, non ? Ah, et puis ça fait longtemps. Le fameux viewer de Time Out. Exactement. Exactement. Let's go. Lucky était venu jouer à Time Out, justement. C'était très sympa. Allez, Lucky. La sieste. Voilà. 92 viewers. Vous allez donner un max de force à nos amis Lucky et Claire. C'est parti. Des bisous. Prenez soin de vous, de ceux que vous aimez. J'espère que certains d'entre vous sont en vacances. Sinon, vous tuez pas au boulot, sauf si vous kiffez ça. Chacun fait ce qu'il veut. Je vous dis à ce soir, 19h30, 20h. Et merci pour tout. C'était un plaisir de vous avoir encore ce matin. À ce soir.